Donc on prend Bezrat Hashem, notre troisième chapitre sur le Perek Dalet, d'accord, donc sur le quatrième chapitre. Donc on va finir avec ça, Perek Dalet. Alors, on est dans le Perek Dalet. On est page Tzadik He, donc l'équivalent de page 189, en haut de la page, la deuxième ligne, à la fin de la deuxième ligne. Où on en est? On a expliqué dans les trois premiers chapitres de Guéret Teshuva que l'essentiel de la Teshuva, c'était quoi? C'était justement de décider d'abandonner, de ne plus recommencer, de ne plus jamais faire quoi que ce soit à l'encontre de la volonté d'Akadosh Baruch Hu en cours. Sur le papier, c'était facile, mais on a tout de suite compris que dans la pratique de tous les jours, c'est pas normal que si je prends une décision comme ça, le lendemain je me retrouve à faire une avéra. Il y a un problème dans le système. Je ne peux pas prendre une décision de ne plus jamais recommencer, et le lendemain tu recommences comme si de rien n'était. Donc ça veut dire qu'il y a un problème dans le système, c'est-à-dire qu'on a peut-être mal compris qu'est-ce que c'est la Teshuva. La Morazaken, donc dans les trois premiers chapitres, on a juste expliqué la Teshuva dans le côté halakhique. On a tout de suite compris qu'il y a un problème, qu'on est obligé de développer ça avec la Chassidut, avec la Kabbalah, le Zohar et tout ce qu'il faut. Donc, à partir du Perek Dalet, la Morazaken a dit quelque chose de très important. Il a dit, c'est très simple, si tu veux expliquer ce que c'est la Teshuva, Teshuva est égal à retour, d'accord? Avant de comprendre qu'est-ce que ça veut dire le retour, il faut d'abord comprendre quels sont les deux éléments. D'accord? Ça veut dire que comment on peut définir le lien qu'il y a entre un juif et Dieu. Avant de parler de retour, il faut d'abord définir qu'est-ce que c'est un juif, d'accord? Quel est son lien normal avec Dieu? Comment en général il communique avec Dieu? Qu'est-ce qui se passe quand il fait une mitzvah? Qu'est-ce qui se passe quand il fait une avéra? Et comment la teshuva va récupérer ça? C'est seulement après qu'on comprend comment la teshuva récupère. Tant qu'on n'a pas compris qu'est-ce que c'est le juif, d'accord? Quel est son lien avec Akadosh Baruch Hu? On perd notre temps. Est-ce qu'on est d'accord sur ce point? On est d'accord? Encore une fois.
On en est resté là.
Est-ce que tout le monde est là?
Le lien avec Akadosh
Baruch Hu. Non, là, je sais que tout le monde est là, mais est-ce que tout le monde est là?
Si Yaakov est là, c'est que tout le monde est là.
Non, là, ça veut dire que tout le monde est présent. Est-ce que je répète le point que je viens de dire? C'est un point important que je viens de dire. Je répète. Ce qu'on essaye de faire depuis Perek Dalet, c'est que on essaye de comprendre quel est le fond de la Teshuva. On a compris que dans l'aspect halakhique, c'est quoi la teshuva? C'est décider de ne plus recommencer. Ça, on l'a compris, on l'a dit, répété, ok. Décider de ne plus recommencer, décider de ne plus jamais aller à l'encontre de la volonté de Dieu dans quelque avéra que ce soit. Ça, c'est une décision. Bon. On a expliqué que le problème qu'on a avec la teshuva, c'est qu'on voit que, concrètement, les gens ils font teshuva, mais après ils refoutent le lendemain comme si de rien n'était. Donc il y a un problème. Ça veut dire que la décision, à la base, n'était pas bonne. Ou elle n'était pas bonne, ou elle avait un problème, je sais pas, mais il y a un problème.
C'est trop fort.
Donc, de là, Admon Razaken, il a posé d'autres questions à part ça, mais le but de toutes ces questions, c'est de comprendre qu'est-ce que c'est la Teshuva. La réponse à toutes ces questions, c'est quoi? C'est qu'avant de comprendre qu'est-ce que c'est la Teshuva, il faut d'abord comprendre les rouages du lien qu'il y a entre un juif et Dieu. Alors, donc d'abord, il faut d'abord comprendre qu'est-ce que c'est le juif, d'accord? On n'expliquera pas qu'est-ce que c'est Dieu, mais bon, qu'est-ce que c'est juif? Comment un juif communique avec Dieu? Et comment, lorsqu'il fait une mitzvah, il communique en bien avec Akadosh Baruch Hu, et lorsqu'il fait une avéra, il communique en mal avec Akadosh Baruch Hu. C'est seulement une fois qu'on aura compris ça, qu'après on pourra essayer de comprendre comment on peut faire teshuva. C'est-à-dire, c'est seulement une fois qu'on a compris l'ampleur de ce qui s'est passé, qu'on peut comprendre comment on peut réparer. Tant qu'on comprend pas l'ampleur de ce qui s'est passé, on peut pas essayer on peut pas comprendre comment je peux réparer. C'est comme si vous avez un enfant qui a pris un vase et qui l'a cassé. Maintenant, il s'est dit que c'est pas bien, j'ai pris un vase, qu'il a entendu du bruit, il croit que c'est grave. Quand il sait pas que le vase qu'il a cassé, il valait 300 euros. Et pour lui, bon, j'ai fait tomber, ça fait un peu de bruit, on va devoir débarrasser. Voilà, c'est ce qu'il se dit, l'enfant. Il va dire, maintenant, on va devoir balayer. Il n'a pas compris qu'il y a un vase, et que ce vase, il vaut 300 euros, que tu l'as cassé, qu'on peut le récupérer. L'enfant n'a pas compris. Nous, on est un peu la même manière. Elle va et qu'on soit comme ça. Nous, on casse un vase, on croit, oui, ça va être fatigant maintenant, on va devoir balayer. Comme ça, l'enfant, il croit. Il dit, pourquoi c'est un problème, le vase? Parce que maintenant, on va devoir balayer. Bon, il dit, ça va, c'est pas la fin du monde. Quand il va grandir, il va comprendre, si tu sais quel vase tu as cassé.
60.
D'accord? T'as cassé un vase qu'on avait acheté dans tel endroit et qui valait ici et qui valait. Il y a tout un monde derrière. C'est seulement une fois qu'on comprend qu'on est capable de faire tchouva. Si l'enfant il vient, il dit désolé papa, désolé maman, mais que lui dans sa tête, il dit en quoi je leur ai pris la tête? Je leur ai pris la tête parce que maintenant ils ont dû balayer. D'accord? Il dit désolé, je dois balayer, désolé à cause de vous, vous avez dû balayer. Il va pas être capable de demander réellement pardon puisqu'il comprend pas l'ampleur de ce qu'il a fait. Pour comprendre pardon, il faut d'abord comprendre qu'est-ce qu'on a fait.
Pardon, désolé.
Pour comprendre ce qu'on a fait, il faut d'abord comprendre qui on est. Qui on est et comment on communique avec Akadosh Baruch Hu. Est-ce qu'on est d'accord? Qui on est, après on va comprendre comment on communique avec Akadosh Baruch Hu, après on va comprendre comment on peut justement faire du mal à ce lien qu'il y a avec Akadosh Baruch Hu. D'accord? C'est ça ce qu'on va expliquer. Donc là, ce qu'on a expliqué au début de, depuis le début du Perek Dalet, on a d'abord essayé d'expliquer qu'est-ce que c'est le juif. Qu'est-ce que c'est la Neshama. Qu'est-ce qu'on a expliqué? On a expliqué, c'est là qu'on a expliqué qu'il y avait deux canaux dès la création. Là, on veut expliquer justement que le juif est différent dès le départ. C'est pas une différence. C'est pas qu'il est différent au bout du compte. D'accord? Dès le départ, il est différent. Est-ce que vous vous rappelez ce qu'on avait expliqué? C'est quoi la différence entre le juif et le reste?
Les dix paroles. Avant le...
Alors, on avait donné un exemple, déjà. Très bien.
Et la parole.
Très bien.
Sauf qu'à l'extérieur, on va...
Alors, sur toutes les autres créatures, qu'est-ce qu'on a expliqué? On a dit qu'ils ont été... Dieu a parlé. Dieu a parlé. Yomer Elohim, Yéhor. Dieu a dit que la lumière soit, la lumière fut, etc. Pour tout, pour les anges, pour tout ce qu'on veut. Pour l'homme, c'est écrit, Dieu, il a insufflé. C'est quoi la différence entre parler, donc parler est égal à souffler. C'est quoi la différence entre souffler et insuffler? Qu'est-ce qu'on a expliqué? On a dit, souffler, c'est quelque chose d'extérieur, de superficiel. Alors que insuffler, c'est quelque chose de profond. C'est ce qu'on a expliqué. De la même manière, c'est une image, tout ça. Ça veut pas dire que Dieu souffle ou insuffle. C'est une image pour nous dire que le Ham Israël, il a été créé par un autre vecteur, un autre canal complètement différent du reste de toutes les créatures, même le Malachi. Toutes les autres créatures ont été créées par le vecteur de Elohim. Alors que nous, on a été créés par le vecteur de Yudke Vavke. Et c'est là qu'on s'est arrêté sur ça. On a expliqué Yudke Vavke, ce fameux Yudke Vavke.
C'est quoi la
preuve? Alors, c'est écrit comment on appelle ça, dans la parasha Nitzavim. C'est écrit Kirelek Hashem Amo. Que le peuple juif, même lorsqu'il faute, c'est une partie intégrale de Hashem, Yudke Vavke. Bon. Alors, on a essayé d'expliquer ça maintenant. On s'est arrêté sur ça la semaine dernière. On a expliqué, déjà, que la création, ça on a expliqué longuement, je ne sais pas ce que vous en rappelez, on a expliqué comment dans la création on retrouvait Yudke Vavke, vous vous rappelez? Il y avait la pointe du Yud, le He, le Vav, le He. Alors, pour expliquer ça, on a pris l'exemple d'une personne qui se lance dans une affaire, qui décide de se lancer dans une affaire. Est-ce que vous vous rappelez c'est quoi les quatre étapes qu'on a dit? Les cinq étapes en vérité, si on réfléchit bien. Enfin, c'est quatre qui font cinq.
Alors, on a noté là.
Alors, allez.
Il y a d'abord la volonté, je crois.
Alors, c'est quoi la pointe du Yud?
C'est la volonté.
La volonté. Mais une volonté qui est profonde, on a dit, qui n'est même pas définie. Et que c'est possible que la personne va partir de ce monde sans même savoir qu'elle a eu cette volonté. Il y a des gens qui ont des volontés profondes comme ça, mais ils savent pas. Bon, ça c'est la pointe du Yud. Ensuite, on a le Yud. C'est quoi le Yud?
L'idée, c'était.
Le Yud, c'est le flash.
Le flash, l'idée.
Quand il a l'idée. D'accord, c'est quand, tout d'un coup, son esprit vient lui-même. Comme ça, il a vu un flash. Là, il a vu tout en clair. Il a vu la lumière. Bon. Ensuite, on a le Hé. C'est quoi le hé? La différence entre le yud et le hé, on a dit?
C'est
quoi? L'élargissement et le développement. Ça veut dire quoi? Deux points, on a expliqué.
Le blanc, oui.
On a expliqué que le but du hé, c'est quoi? C'est, qu'est-ce qu'on va faire dans le hé? Premièrement, on va prendre l'idée, on va la décortiquer dans les détails. D'accord? Donc, ça s'appelle, on va la développer en largeur. Et deuxièmement, on va prendre l'idée, on va essayer de la faire descendre. D'accord? On va essayer de la faire descendre dans toutes les phases. Ça veut dire que quand on fait le business plan, on va être capable de reprendre, bonsoir. On va être capable de reprendre étape par étape et de dire voilà ce qui va se passer dans 10 ans. Maintenant, on n'a même pas encore commencé. Donc premièrement, on va le décortiquer dans les détails. Deuxièmement, on va faire descendre dans ce qui va se passer dans les années suivantes. On est d'accord?
Oui.
Ça c'est le hé. Ensuite, après, on a le vav. Le vav, on a expliqué correspond à quoi? Toujours dans la personne qui se lance dans les affaires. C'est quoi le vav?
Et les sentiments, c'est ça le cœur.
C'est lorsque la personne va tellement réfléchir à son projet qu'il va finir par s'y attacher. Donc il va finir par... Il y a plusieurs points. Bonsoir. Il va commencer à communiquer, il va commencer à aimer le projet, il va commencer à ne pas aimer certains points.
Communiquer, c'est dans le...
D'accord?
Être modeste.
Non. Commencer à communiquer avant de lancer son projet.
Là, on est dans le vav.
Ah non. Dans le vav, il y a aussi la communication. Parce que le yesod, c'est la dernière mida du vav, c'est la communication. Mais attention, pas la communication pour lancer le projet. La communication pour sentir le marché, pour préparer.
L'étude.
Mais ça veut dire que c'est là que tu sens vraiment le projet. C'est plus un projet qui est dans la tête. C'est là qu'on le sent. Ça, c'est le vav. Non, market research, c'est déjà dans le premier hé. D'accord? Là, on n'est plus dans le market. Là, on est déjà en train de parler au marché. C'est-à-dire, je suis déjà persuadé que mon projet est bon. Mon projet est bon, mais maintenant, je commence à communiquer pour voir ce que les gens pensent, etc. Mais mon projet est déjà bon. Ça, je l'ai déjà décidé au mode hé. Donc ça, c'est, à la lettre vav, on va dire, je commence à ressentir. Et la dernière lettre de hé, le dernier hé, c'est quoi? C'est la pratique, c'est quand je passe au concret. De la même manière, lorsque Akadosh Baruch Hu a créé le monde, On a ces quatre étapes. On a ces quatre étapes, on retrouve exactement les mêmes quatre étapes. La Kadosh Baruch Hu est d'abord une volonté, et qu'après, progressivement, il a développé cette volonté avec le He, le Yud, le He, le Vav et le Tzid. D'où l'importance du nom Yudke Vavke. D'accord? Donc après, d'où l'importance du nom Yudke Vavke, c'est ce qu'on a expliqué. Maintenant, on va expliquer quelque chose de très important aujourd'hui. Je suis en haut de la page Tzadik He. C'était important, vous allez voir pourquoi c'est important de faire un résumé. Deuxième ligne. Page 180, l'équivalent de la page 189. Alors, Vekacha Mamash, et ça c'est très important. Alors là, on va l'expliquer en résumé dans à la fin du Perek Dalet, mais ça va être développé surtout longuement dans le Perek He. Pourquoi je dis que c'est très important? Parce que c'est ce point-là qui va nous aider à comprendre qu'est-ce qui se passe quand on fait une Mitzvah et quand on fait une Avera. Très très important à comprendre ça. C'est là qu'on va comprendre qu'en vérité, la Neshama du Juif, est calquée sur le modèle comment Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il y a d'autres créatures, les autres créatures, bon, sont un petit peu indépendantes, entre guillemets. Alors que la Neshama d'un juif est calquée sur la méthode comment Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Ça veut dire que quand un juif se comporte pas bien, c'est pas seulement lui qui va pas bien. C'est toute la terre qui va pas bien. Puisque dans la Neshama, on va retrouver le même Yudke Vavke. Les mêmes quatre étapes qu'on a dit, on va retrouver ça, ces mêmes quatre étapes dans la Neshama. C'est pour expliquer le fait qu'un juif a toujours un caractère général, un caractère global. Et que quand il fait une Avera, c'est toute la planète qui va en souffrir. De la même manière, quand il fait une mitzvah, c'est tout le monde qui va en bénéficier. Alors, on va rentrer dans les détails. Vekach hamamash al derech mashal. De la même manière qu'on a expliqué, donc, Yudke Vavke. Expliqué longuement, Yudke Vavke. Comment on retrouve ça, donc, dans la création du monde. De la même manière, al derech mashal, amavdil avdalot l'enquête. Bien sûr que ça veut pas dire que nous sommes Dieu. Parce qu'il va dire, c'est-à-dire que moi, j'ai Yudke Vavke, je suis Dieu, alors. Ah, je vais créer le monde, ça y est, non. Shalom, attention, faut pas non plus raconter des bêtises, mais le concept est bon. D'accord? Le concept est là. Le concept est là, ça veut dire que c'est le même concept que la création du monde. Ça veut pas dire qu'on va créer un monde, ça veut pas dire qu'on est Dieu, mais le concept est là. Ve nishmat adam, shehi prinat nefesh elokit de mitoche nafar. Il en est de même pour la neshama de l'homme. Et quand je dis la neshama de l'homme, de quoi je parle? Je parle de l'âme divine. L'âme divine de mitoche nafar, que quand on dit que Adam Harishon, que Dieu a insufflé Adam Harishon, il n'a pas insufflé son corps. Parce que son corps, comment c'est écrit? C'est écrit va yitzer, son corps il a formé. Son corps il n'a pas insufflé. Qu'est-ce que Dieu a insufflé? Va yipar ve'apav nishmatraim. Il a insufflé son âme. Bon. Alors, quand on dit que Kadosh Baruch Hu a insufflé, dans la neshama que Dieu a insufflé, on va retrouver exactement les mêmes quatre lettres yudke vavke. Et il développe. On a tout d'abord Yeshba Prinat Sechel Aneelam Amerumaz Beot Yud. De la même manière, à quoi sert la Neshama? Ça c'est un point très important à comprendre aussi. Quand on dit l'âme divine, d'accord, l'âme divine, on dit l'âme divine, l'âme animale, j'ai du mal à comprendre. C'est quoi l'âme divine, c'est quoi l'âme animale? C'est-à-dire, j'ai pas envie de la toucher, mais j'aimerais comprendre quand l'âme divine est en activité et quand l'âme animale est en activité. Alors ça on a expliqué. Au tout début du Tanya. Ouais, est-ce qu'elle peut être les deux en même temps? Ça, on a expliqué au tout début. Je crois que c'était chapitre 5 ou chapitre 6. Que, quand je fais une action, si c'est une action qui est liée à une avéra, ou c'est une action qui est neutre. Par exemple, je vais au boulot, je mange, je bois, je quelque chose de neutre. C'est lié à l'âme animale. Ça veut pas dire que ça va vers le mal. D'accord, attention. Ça veut pas dire que ça va vers le mal, parce que la preuve, c'est que par exemple, je veux boire quelque chose, si c'est pas une mitzvah, par exemple, je pourrais récupérer cette énergie pour en faire quelque chose de bien avec les étincelles. Ça n'y a pas de problème. Ça change pas que la neshama qui est en activité, je veux dire l'énergie qui est en activité, c'est l'énergie de nefesh abemit, de l'âme animale.
D'accord?
Oui, encore une fois. Âme animale, ça veut pas dire du tout, d'accord? Âme animale, ça ne veut pas dire du tout l'âme négative. Alors, d'accord? Rien à voir. Âme animale, ça veut dire qu'il y a l'aspect animal, ça veut dire, comme il y a les animaux, ils font pas des choses mauvaises. Ils font ce qu'ils font, c'est naturel. Tout ce qu'on fait de naturel rentre dans l'aspect de nefesh abemit, l'âme animale. Nefesh elokit. Non, vital c'est encore autre chose. Je rentre pas dedans. Nefesh elokit, l'âme divine, elle rentre en jeu seulement lorsqu'on commence à faire une mitzvah. Lorsqu'on se met à faire une mitzvah, quand, lorsqu'on se lance dans une mitzvah, c'est là que tout de suite l'âme divine s'éveille. C'est là que l'âme divine est en éveil. Donc vous comprenez que finalement l'âme divine, elle est en éveil que très peu de temps dans la journée. Très peu de temps. Alors bien sûr qu'après on explique en chassidut qu'une personne elle doit chercher à retrouver dans son travail, comment c'est une mission d'Akadosh Baruch Hu. Bon alors après on peut chercher. D'accord. Mais dans les faits, chez la majorité des gens, s'ils ont, on va dire, 5% de la journée qui est dédiée à l'âme divine, c'est déjà extraordinaire.
Mais de toute façon, le temps que fait de chercher dans le boulot, c'est pas pour autant qu'on cherche, qu'on va transformer
oui.
le boulot.
Oui, tu as raison. Bon, il y a les techniques. Il est là, il est là. Rudy. Bon, très bien. Donc, ça c'est un point important à comprendre. Que l'âme divine est en activité, l'âme divine est en activité, seulement, c'est en activité seulement, quand on est en train de, quand on est en train, entre guillemets, de parler avec Dieu. C'est ça ce que ça veut dire. Alors retenez bien ce que je vais dire, parce que sinon on ne comprendra pas la suite. L'âme divine est en activité quand, quand on est en train de parler avec Dieu, quand on communique avec Dieu. Comment on communique avec Dieu ? Par exemple, quand on prie, quand on fait une mitzvah. D'accord ? Quand dans, au travers le travail, on va retrouver une mission d'Akadosh Baruch Hu. Ça s'appelle communiquer avec Dieu, ça aussi.
Si on fait la bracha sur un aliment, est-ce que du coup ça devient pareil. Plus de manger, ça devient un acte...
Si au travers de la bracha, je dis que c'est pour ça que je suis en train de boire, parce que Dieu a envie que je fasse la bracha, dans ce cas-là, il y a la nefesh Elokit qui s'est mêlée.
Donc on a transformé ce qui pourrait être... Ouais.
Non, c'est pas négatif, Nefesh Abemit.
Non, mais on l'a élevé quand même.
Oui,
on l'a élevé
bien
d'un
sûr.
Niveau.
On l'a élevé d'un niveau. Nefesh, ça c'est Nefesh Elokit. D'accord? Ça veut dire que Nefesh Elokit, donc voilà, on va résumer. Nefesh Abemit, c'est celle qui est responsable de la communication avec tout ce qui est matériel, tout ce qui est physique. D'accord? Nefesh Abemit, ça c'est Nefesh Abemit. Nefesh Elokit, c'est l'âme qui est responsable de la communication avec Dieu. Communication avec Dieu, c'est-à-dire tout ce qui est sacré. Donc, communication avec Dieu, qu'est-ce que j'entends de communication avec Dieu ? La tfila, les mitzvot, etc. Bon. Alors maintenant, rappelez-vous ce qu'on a expliqué dans le plan tout à l'heure, qu'on a dit, quand une personne a un plan dans sa tête, on a cité 4 ou 5 étapes.
4.
D'accord ? Il y a 4, en tout cas, 4 principales. 4 principales étapes pour expliquer qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe. C'est-à-dire, c'est pas parce que au fond de moi, j'ai envie de faire un projet que ça se fait tout de suite. Il y a des étapes. D'abord, j'ai l'idée, après je la développe, après je m'y attache, après je passe à la pratique, et des étapes. D'accord ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour arriver au dernier hé, qui est le hé de la communication, donc avec le client, on n'arrive pas comme ça au dernier. Il y a d'abord un travail qui est fait en amont. D'accord ? C'est seulement après que tu peux avancer. Si tu viens directement, tu dis moi on fera le reste du travail en aval, ça marche pas comme ça. La majorité du travail doit être faite en amont. On a Yud Kevav, c'est le travail qui est fait à l'avant. Très bien. De la même manière, quand il s'agit de communication avec Dieu, quand on parle de communication avec Dieu, puisque finalement, quand on fait le Torah et Mitzvot, on communique avec Dieu. Notre Neshama est en train de communiquer avec Dieu. Est-ce qu'on est d'accord sur cette définition ? Très bien. Dans la même manière, dans la communication avec Dieu, on va avoir plusieurs degrés de communication. La même chose. Tu vas avoir celui qui va se préparer, et qui va essayer de retrouver dans sa mitzvah quelque chose de profond. Tu vois celui qui va rien faire de tout ça, mais qu'il va passer à l'acte. Ça veut dire qu'il va faire sa mitzvah. On va retrouver les mêmes 4 étapes qu'on a retrouvées dans le business, là, enfin dans la création du monde. On va retrouver exactement les mêmes 4 étapes dans la communication avec Dieu. D'accord ? C'est bon ?
Business ou création ?
D'accord ? C'est la même chose. C'est 4 étapes qu'on va retrouver. Vous voyez ce que je veux dire ? Dans la communication avec Dieu. Alors, on va reprendre à Yeshba Prinat Sechel Anelam.
Yeshba.
Ouais.
114. Bleu. T'as rattrapé les débuts ? Non, c'est vas-y.
Pourquoi 114 ?
Si tu comprends pas, il faudra un peu...
Non, 114 en bas.
Yes, bas.
Non, il n'en a rien.
Je colle.
On y va ? Ok. Donc, de la même manière que lorsque Dieu... Ça veut dire comme ça. Finalement, on parle ici de communication. Lorsque Dieu a communiqué avec le monde, ça s'est passé en 4 étapes. Lorsque nous allons communiquer avec Dieu, ça va se passer également en 4 étapes. Maintenant, on peut sauter des étapes, des fois. La question est, qu'est-ce qui se passe quand on saute les étapes ? C'est ça la question. Dieu, quand il a communiqué avec nous, quand il a créé le monde, il est bien passé par 4 étapes. Quand moi je communique avec des clients, je vais passer par ces 4 étapes, sinon ça marche pas. De la même manière, quand moi je vais communiquer avec Dieu au travers de mes mitzvot, on va passer par ces mêmes 4 étapes, mais ça va être dans l'autre sens. C'est quoi les 4 étapes ? Il dit, c'est très simple, il dit, « Yeshba prinat » Sechel Anelam. Emerumas Beotiu. La première étape, d'accord, c'est quoi ? C'est Sechel Anelam, ça veut dire, c'est le fait qu'un juif est juif au plus profond de soi. Shebekoro Latset El Agiloui. Le fait qu'un juif, au fond de lui, a envie de communiquer avec Akadosh Baruch Hu. Il a un flash. De la même manière qu'on a expliqué que quand j'ai un plan, ça commence par un flash. De la même manière, un juif, dans sa vie, il a des flashs. C'est quoi un flash ? C'est quand il a envie de, à un moment, il a un flash, il dit, ah, j'ai envie de m'approcher de Dieu. C'est-à-dire, ça prouve que la machine, elle tombe toujours. Maintenant, il est possible que ce flash, comme on a expliqué avant, ne va donner naissance à rien du tout. Rappelez-vous, dans le business, il y a des gens qui ont beaucoup d'idées, ils ont beaucoup de flash, mais pour autant, c'est pas des gens qui deviennent milliardaires, parce qu'ils lancent pas leurs idées. De la même manière, dans la vie de tous les jours, un juif peut avoir sa neshama qui envoie des flashs de communication à Dieu. C'est-à-dire qu'il a un flash comme ça, il se sent, il a envie de remonter. 10 secondes plus tard, il n'y a plus rien.
C'est le yud, ça ?
D'accord, ça c'est le yud. D'accord ? C'est un flash. Il se réveille un matin, pac, il se sent comme ça tout chaud. Mais bon, après, ça paraît comme si de rien n'était, comme si que ça n'a jamais rien passé. Ça vous est déjà arrivé ?
Tout le temps.
Un matin, on se lève comme ça, tout d'un coup, t'as envie, bah, t'as décidé, tu... D'accord ? T'as décidé, tu vas, aujourd'hui, tu vas tout arranger, pas tout casser. D'accord ? Tu décides, d'accord, tu te lèves d'un bon pied, etc. Après, bon, quelqu'un, il va t'énerver dans la route, t'as déjà oublié, hein, quelqu'un, il t'a fait une queue de poisson, t'as déjà oublié, c'est fini, t'es déjà parti ailleurs, t'as complètement oublié. Qu'est-ce qui s'est passé de ton flash? Ah, il est parti. Tu l'as pas pris, tu l'as pas récupéré. Ou bien sa femme, elle lui a dit un mot de travers, ou bien il a dit un mot de travers à sa femme, ou ce que vous voulez. Ça, il a oublié le flash. Ça, il est ni youd, ni rien du tout.
Mais la volonté, elle reste.
Ah. Ça veut dire quoi? Ce qui est de bien, c'est que ce youd, il nous prouve que la machine, elle marche toujours. Qu'il y a une machine derrière. On prend de temps en temps, il te rappelle, il t'envoie un flash. Et ça, c'est quelque chose que personne ne saura.
Ça, c'est la volonté.
Quand on voit des gens, des fois, qui ne sont pas du tout religieux, etc., il dit oui, il n'est pas religieux, il n'est pas... Tu ne peux pas savoir ce qui se passe dans sa tête. Est-ce qu'il a ce flash? Est-ce qu'il a... C'est certainement qu'il a ce flash. À quelle fréquence, je ne sais pas. Mais certainement qu'il l'a. D'accord? Bon. Donc, de la même manière, on va retrouver les mêmes quatre étapes. La première étape, c'est la plus simple. C'est l'étape de la communication, c'est-à-dire le flash. La vie ou les askil ba mitato ou vigdulat itbarech ou vigdulato vechoule kol chad vechad les fum shiura dile les firochav sichlo ou binato. Rappelez-vous ce qu'on avait expliqué. Après le flash, qu'est-ce qu'on avait besoin? On avait besoin d'élargir l'idée et de la faire descendre. Rappelez, élargir l'idée, ça veut dire la faire, ça veut dire essayer de la décortiquer dans les détails, et la faire descendre, ça veut dire essayer de prévoir dans mon business plan qu'est-ce qui va se passer. Dans 5 ans, essayer de la projeter. D'accord? Donc essayer de la décortiquer, ça c'est en largeur, et essayer de la projeter vers l'avant. Très bien. De la même manière, c'est la même chose avec ton flash. J'ai un flash à un certain moment, un beau matin, je me réveille, je me dis, j'ai envie de faire teshuva. Ah, j'ai envie de changer. C'est un flash, le flash il est là. C'est un vrai flash. D'accord? Ton Yetzer il va essayer de te calmer, il va dire, non, c'est du pipeau, tu crois que t'es devenu un grand tzadik, ça y est, pour qui tu te prends, calme-toi, reste tranquille, t'as oublié ce que t'as fait hier, t'as oublié ce que tu vas faire demain, calme-toi. Mais bon, mais c'est un vrai, le flash était vrai. Si on veut que le flash va tenir, qu'est-ce qu'on doit faire?
Oui,
on doit prendre ce flash et on doit essayer de le développer. Et de le développer dans les mêmes points que j'ai expliqué. Ça veut dire tout d'abord d'essayer de le développer en largeur. C'est-à-dire quoi en largeur? Ça veut dire essayer de prendre le flash que j'ai eu. Attends, t'as envie de mieux te comporter. Alors comment je vais mieux me comporter? Dans quoi je vais changer? Qu'est-ce que je vais faire? Tu vas essayer de détailler. Tu dis bon voilà, ce détail, aujourd'hui ce détail, demain ce détail, après. Tu réfléchis. Ça s'appelle décortiquer. En largeur, d'accord. Mais après, il y a aussi projeter vers l'avant, parce que celui qui croit qu'il va faire teshuva en une seconde, il a rien compris. Ça marche pas comme ça. Donc, une partie aussi du premier hé, c'est quoi? C'est une fois que j'ai eu ce flash, d'essayer de prendre cette communication que j'ai avec Dieu, d'essayer de la projeter, c'est-à-dire faire un plan, de dire bon voilà, on va aller progressivement, petit à petit. Aujourd'hui, je rajoute ça dans la tefila, demain, je rajouterai ça. Aujourd'hui, j'ai la kavana sur ça. Chacun à son niveau. D'accord. Chacun à son niveau. Ça veut dire, tout d'abord, décortiquer dans les détails, et deuxièmement, projeter vers l'avant. Ça prend du temps, les choses prennent du temps. Personne n'a dit que tout devait être fait en une seconde. Ça n'existe pas. Les choses qui sont faites rapidement ne tiennent pas. Ça ne tient pas. À moins qu'il y ait un miracle. Bon. Donc ça, c'est le hé. Mais pour l'instant, on n'a pas encore fait de mitzvah. D'accord? On retrouve exactement dans la communication avec Dieu, on retrouve exactement les mêmes quatre étapes.
On parle de mitzvah.
Ah non.
Non. On va rajouter.
Pas forcément. Pas forcément de mitzvah.
Une démarche de
tout. Il y a des gens qui passent directement à la mitzvah. La mitzvah, on expliquera tout à l'heure, c'est le dernier hé. Il y a des gens qui font directement le dernier hé, sans passer par les étapes préliminaires. Est-ce que ça marche? Ça marche pas? On verra.
Celui qui est dans une famille religieuse, il fait ça directement.
Tu as raison, c'est possible, oui.
Oui.
Tu as raison, celui qui est dans une famille religieuse, il est, donc, il est, comment on appelle ça? Il est directement dans le dernier hé. C'est possible. D'accord. D'accord. Là, maintenant, on essaie d'expliquer que de la même manière que dans la création du monde, on trouve ces quatre vecteurs, enfin, ces quatre étapes dans la communication, on est bien d'accord, ces quatre étapes dans la communication. De la même manière, quand un juif communique avec Dieu, il peut retrouver ces quatre étapes. Après, il y a des gens qui les utilisent presque jamais, il y a des gens qui les utilisent jamais, il y a des gens qui les utilisent toujours. Après, chacun à son niveau. Mais on retrouve ces quatre étapes. Vous voyez, on voit comment ça nous parle. La première étape, c'est le flash. Ça nous arrive. La deuxième étape, c'est quand je prends ce flash, j'essaye de décortiquer. Vous savez, un jour, imaginez-vous quelqu'un, un jour, il se réveille, il dit, attends, quand même, ça se fait pas, je m'occupe pas assez bien de mes enfants, je m'occupe pas assez bien de ma femme, je fais pas assez bien ça, je fais pas... Donc il a un flash, mais il dira jamais, attention, il va jamais le dire à sa femme, pas, il va dire, tu sais, j'ai réfléchi, jamais, il dira pas, mais là, il a un flash. La question est, qu'est-ce qu'il va faire de ce flash? Est-ce qu'il va faire un plan? Est-ce qu'il va dire, bon, voilà, ce soir, je l'amène au restaurant, demain, je fais ci, après, demain, je fais ça, et je fais des courses, ça, il va faire son plan.
D'accord? Qu'est-ce qui t'arrive, hein?
Voilà.
On revient à la question de Jacob de la semaine dernière. Parce que ce n'est pas...
Oui, parce que moi, quand tu parles comme ça, c'est peut-être quelqu'un qui essaie d'analyser un petit peu sa vie, etc., parce qu'il a eu des lectures, et puis réfléchit, puis à un moment donné, ce que tu appelles un flash, toi, en fait, c'est pas un flash. C'est l'intérêt qui a fonctionné.
C'est une prise de conscience.
La culpabilité.
Alors, ce qui est très important à comprendre, c'est que la prise de conscience ne vient pas forcément suite à une réflexion.
Elle peut venir suite à un flash.
Elle peut venir comme ça.
Elle peut venir, oui, mais suite à une réflexion.
Oui, mais attends.
Maintenant, il a raison. Elle peut venir
en gros, il peut faire en sorte que la personne, par exemple, a vu quelque chose qui l'a choqué. Alors lui, il s'est dit, oui, t'as vu, j'ai vu ça, ça m'a choqué. Il dit, mais Khmar, pourquoi t'as vu ça? C'est parce que c'est Dieu qui a fait que t'es passé devant. Lui, il est persuadé, hein, c'est moi qui ai vu et c'est moi qui me suis réveillé.
Dès lors que tu admets que Dieu est derrière tout,
je ne parle pas de toi, parce que j'ai rien vu.
Dès lors que tu admets que Dieu est derrière tout,
oui,
ça peut être aussi quelqu'un qui va te conseiller.
Oui, bien sûr, exactement. C'est ce que je viens de dire, d'accord. Bon. Qu'est-ce que j'ai
pas entendu? Du couple néo-nazi, là, on a parlé.
En Pologne,
un couple néo-nazi.
Le couple néo-nazi.
Père,
qui a parlé, j'ai pas compris.
Il y a un couple en Pologne, néo-nazi,
oui,
qui s'est avéré être juif. La femme,
c'est une histoire qui est parue il y a pas longtemps.
Elle était néo-nazi depuis quelque temps, fréquentait un néo-nazi, un fou, et elle a d'un coup est revenue l'idée dans sa tête que sa mère lui avait dit qu'elle avait des origines juives. Comme ça, d'un seul coup, c'est revenu. Et puis en recherchant, elle savait qu'elle était juive et que le mari était, et que le copain était juif.
Elle a fait tout ça, elle est revenue.
Oui, ils sont amenés bras, que lui il est boulanger, elle, je sais pas ce qu'elle fait.
Il est resté dans
la chouette.
Il aime le sang alors.
Non, mais là par exemple, ça, là, ce que tu dis, toi, ça peut être très bien. Sa mère qui a dit ça, elle l'a mis dans un coin parce qu'elle voulait pas y penser, etc.
Oui, ça ressort.
C'est ressorti. Ça c'est pas un flash.
Oui, si, ça peut être un flash. Justement.
C'est pas Youth, ça, je m'excuse. C'est
ce qu'a expliqué Dan.
Un vave qui remonte le courrier.
Non, justement, c'est ce qu'a expliqué Dan. Il a dit, justement, il dit, quand par exemple, quelqu'un, il a fait tchouva parce que quelqu'un lui a parlé. Lui, il est persuadé, il dit, oui, c'est pas Dieu, c'est parce que lui, il m'a parlé. Mais c'est Dieu qui a mis cette personne sur ta route. Alors nous, on croit qu'on... Oui, mais c'est un flash. Qui l'a envoyé, ce flash? D'accord? D'où il vient, ce flash? Alors peut-être que Dieu, il va faire en sorte que ce flash va arriver. Il va te faire un appel de phare ou ce que tu veux. Bon, après, ça prend la forme qu'on veut. D'accord. Chez des gens, ça peut être, ils vont avoir un accident, je préserve, ils vont s'en sortir. Ça s'appelle un flash, ça aussi. Oui, ça l'a secoué. C'est la même chose. C'est des formes.
Un flash, c'est dans ton coin.
Moi, le fond que je cherche, c'est un moment dans lequel il y a une prise de conscience.
Voilà, alors, il faut dire plus.
Mais qui est d'accord automatiquement sous forme d'un flash, c'est rapide, ou alors ça peut être une prise de conscience qui dure longtemps?
Non. C'est une prise de conscience qui est très rapide. Instantanée. À un moment, la personne a une image. Vous savez, je suis sûr que ça nous arrive à tous. À un certain moment, on a une image que ça ne va pas. Comme ça, tu le sens très très fort, tu peux le toucher tellement tu le sens. Tu le sens, tu le vois, c'est clair, c'est limpide. Pourtant, tu peux l'oublier tout de suite après. Tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est pas normal. Il faut que... Tu le sens, tu sens que tu as une ferveur, tu veux tout changer. Mais après, ça s'en va. Ça, c'est le yud.
Il faut le saisir, d'accord, en fait.
Il faut le saisir.
Et comment le saisir? Oui.
Ah, très bien, oui.
Est-ce que c'est son rapport en particulier, le flash quand il arrive?
Est-ce que c'est...
On a juste à remonter de changer, par exemple, c'est que ce rapport.
Le flash, de manière générale, comme il explique ici, en fait, le flash, c'est un flash de communication avec Dieu. J'ai envie de communiquer avec Dieu. D'accord? Donc après, communication avec Dieu, on peut retrouver ça partout.
Ouais.
On peut retrouver ça dans la Torah, dans les mitzvot, mais c'est un flash de communication. C'est-à-dire qu'il y a un moment dans lequel on ressent une communication très forte avec Dieu. Tu sens que tu es dedans.
Et qu'est-ce qui fait que, puisqu'on a tous un moteur...
On s'illumine, ouais.
Qu'est-ce qu'il fait, puisqu'on a tous, a priori, d'après ce qu'il dit, on a tous le moteur, en fait,
oui,
au fond de nous, les juifs.
Oui.
Qu'est-ce qui fait que ce flash, il n'est pas perpétuel?
Parce que, justement,
on ne le ressent pas tout le temps.
Parce que de la même manière que quand Akadosh Baruch Hu a créé le monde, il y avait ces fameuses 4 étapes, et que quand on réfléchit, quand une personne a une idée, l'idée, elle a duré une fraction de seconde. Et le temps de le mettre l'idée en exécution, ça peut durer des années et des années. Ça veut dire que proportionnellement, le flash, par rapport au développement, le développement prend beaucoup, beaucoup plus de temps. Un flash, ça vient de temps en temps. De la même manière. Le flash, c'est un juif, il vient de temps en temps. Il est fait pour venir de temps en temps. Il est fait pour envoyer comme ça des petits coups. Des coups de starter. Maintenant, si tu prends le coup de starter, tu démarres, tant mieux. Si tu l'utilises pas pour démarrer, ça démarre pas.
Tous les jours, il vient.
D'accord.
Comme c'est quelque chose qu'on peut pas provoquer, je rejoins ce qui
Si, ah.
Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut provoquer ou si on peut pas provoquer, ça veut dire quoi? Il faut attendre qu'on ait ce flash? Ou est-ce qu'on peut le provoquer?
Ça, c'est, ça on verra. Après, c'est la teshuva. Justement, quand on fait la teshuva, on va allumer le starter. Comment? On verra après.
Pour revenir.
D'accord.
Ouais, mais on est déjà dans la fusée, nous, depuis le chapitre
ouais, mais elle a pas 40, décollé. Elle a pas décollé.
Et je vais expliquer un point très simple. Regardez, un point très simple.
C'est ça le truc. Regardez. Comment elle a fait décoller la fusée?
Un point très simple pour comprendre ce qu'il veut expliquer ici.
Les étapes, bon, elles sont sûrement grillées, mais quelque part.
Je sais pas si c'est...
Regardez, je vais rajouter encore un point. C'est écrit, Maïmonide, il explique, il dit que un Baal Teshuva, il explique la Ma'ala, la qualité extraordinaire de la Teshuva. Comment on voit qu'une personne, la veille, juste avant qu'il a fait Teshuva, lorsqu'il parlait à Dieu, dit Maïmonide, il était loin de Dieu, et dès qu'il fait Teshuva, il devient près d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire quoi? Je vais expliquer un point très important. Dire que, en Kabbalah, on explique que le temps est produit de l'espace. D'accord? Ça c'est expliqué dans la Kabbalah. Par exemple, qu'est-ce qui fait que pour aller d'ici à chez moi, ça prend 5 minutes, et pour aller d'ici à Lyon, ça prend 2 heures? 2 heures, d'accord? Ou 10 heures, ou 5 heures. Comment ça se fait? Pourquoi il y a cette différence? Ce qui fait cette différence, c'est l'espace. Comme d'ici à chez moi, il n'y a pas beaucoup d'espace, donc ça prend moins de temps. Comme d'ici à Lyon, il y a plus d'espace, donc ça prend plus de temps. Ça veut dire que l'espace crée le temps. On est d'accord? Ça, c'est un principe qui est expliqué dans la Kabbalah, c'est un principe de base. Bon, après, Einstein, il en a fait ce qu'il a voulu avec. Donc... D'accord. Donc le temps crée l'espace. Bon. Alors, maintenant, de la même manière que le temps crée l'espace physiquement, ce qu'on explique en Kabbalah, c'est que de la même manière, le temps crée l'espace de manière métaphysique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a deux personnes, par exemple, un qui est hyper intelligent et l'autre qui est hyper bête. D'accord? Si les deux étaient hyper intelligents ou hyper bêtes, dans ce cas-là, la communication entre les deux serait passée très rapidement, parce qu'ils se comprennent. Mais lorsque tu as un qui est hyper intelligent et l'autre qui est hyper bête, automatiquement, il y a un espace, mais c'est pas un espace physique, c'est un espace métaphysique. Et donc l'espace métaphysique fait qu'ils vont mettre du temps à se comprendre. On est d'accord? C'est-à-dire que l'espace crée le temps, l'espace physique ou métaphysique. De la même manière, entre un juif et Dieu. Lorsqu'on fait des Averot, on crée un espace métaphysique entre Dieu et nous. Bah oui, un éloignement.
L'exemple, il est bon, en tout cas.
C'est pour ça, justement, on va comprendre ce qu'il va expliquer ici.
On se reconnaît.
C'est pour ça qu'on a du mal à communiquer avec Dieu. Et même lorsqu'on a un flash, ça démarre un peu, mais on s'arrête. C'est ce qu'explique Maïmonide. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe le jour où on fait Teshuva? Le jour où on fait Teshuva, qu'est-ce qui se passe? On réduit l'espace. Le juif s'est rapproché de Dieu, et donc automatiquement, de manière réciproque, Dieu se rapproche de lui. Donc automatiquement, puisqu'il s'est rapproché, ça prend beaucoup moins de temps. Pourquoi ça prend beaucoup moins de temps? Puisqu'on a supprimé l'espace. Donc puisqu'on a supprimé l'espace, automatiquement on a supprimé le temps. Le tzadik, pourquoi cette fille-là, elle est écoutée tout de suite d'Akadosh Baruch Hu? Puisque le tzadik, il est collé à Akadosh Baruch Hu. Donc il y a zéro espace. Donc s'il y a zéro espace, il y a zéro temps. Vous comprenez? Alors que nous, comme on est éloigné d'Akadosh Baruch Hu, comme il y a de l'espace, donc forcément l'espace crée du temps. Fait que les choses prennent du temps. Alors, pourquoi j'explique ça? Pour expliquer les quatre étapes que je vais expliquer ici, Yudke et Vavke. Quand on communique avec Akadosh Baruch Hu, si on est collé avec Akadosh Baruch Hu, automatiquement la communication se fait très rapidement, comme les deux personnes hyper intelligentes ou les deux personnes hyper bêtes. Comme ils sont au même niveau, la communication, il n'y a pas d'espace, donc le temps, il n'y a pas de temps, c'est instantané. Mais dès qu'il y a un espace entre les deux, tout de suite ça prend du temps. Donc on a besoin de modes de communication, on a besoin de rentrer dans la fusée, de la démarrer, de pousser, d'avancer. Ça c'est le Yudke Vavke. Yudke Vavke, justement, c'est le starter, et après c'est l'idée, et après on développe, après on décortique, après on va sentir. Pourquoi ça prend tellement de temps? Ça prend tellement de temps parce que justement, on est loin d'Akadosh Baruch Hu, il y a de l'espace. On est d'accord? On va développer ça ensemble. Maintenant. Bon. Alors, ça c'est une écouta du Rabbi, ce que je viens d'expliquer.
Ah, ouais.
C'est vrai que c'était limpide.
Oui, on a pas les bons canaux.
C'était limpide. Il y avait un petit passage limpide. Qu'on a bien...
C'est bien. Alors.
Hyper bête ou hyper...
Donc, fille.
Peu importe.
ça la force.
Il est hyper.
La force du tzaddik, la force du rabbi, c'est qu'il est capable de s'adapter à tous les niveaux, il n'y a pas de limite. C'est ça la force d'un tzaddik.
Justement, c'est l'intelligent qui se met au niveau du...
Non, le tzaddik il est encore plus fort. Le tzaddik il est encore plus haut que l'intelligence. Donc, comme il est encore plus haut que l'intelligence, donc il peut s'adapter à l'intelligent comme au bête, parce qu'il a un niveau qui est encore plus haut que tout ça. Mais bon, ça, c'est pour un autre cours.
Entre un intelligent et un bête,
oui.
L'intelligent qui va se rabaisser au bête
pour
l'expliquer.
Non.
Pour pouvoir gagner du temps.
Non, tu as aussi le bête qui peut faire un effort pour essayer de comprendre, tu vas le voir. Il va essayer de comprendre comme ça.
Ça prendra plus de temps.
Et il va le répéter 10 fois, mais lui, normalement, il lui fallait 100 fois pour comprendre. Mais il va essayer en 10 fois, j'ai réussi en 10 fois.
Ça prendra plus de temps.
Dans le cas que tu as expliqué, tu dis que à la fois nous on avance et puis Dieu se rapproche.
Oui, parce que c'est réciproque. Kemaïm, Apanim, Apanim. Si, parce que c'est écrit, ça on l'avait dit dans le chapitre 47. Kemaïm, Apanim, Apanim, Kenlev, Adam, la Adam. Que Dieu, c'est comme l'eau qui nous renvoie notre visage. C'est comme un miroir. C'est-à-dire que si nous on s'éloigne, Dieu est éloigné de nous. Dieu nous donne une impression qu'il est éloigné. Dieu n'est jamais éloigné de nous, mais Dieu nous donne une impression qu'il est éloigné de nous. Donc du coup, s'il est éloigné, donc il y a de l'espace, et du temps. Mais quand nous on s'approche d'Akadosh Baruch Hu, Dieu nous donne l'impression d'être approché de nous. Donc s'il est rapproché, on a supprimé l'espace, donc on a supprimé le temps. C'est pour ça que chez les tzadikim, les choses vont beaucoup plus vite. Beaucoup plus vite. Non, c'est pas que Dieu ne supprime jamais l'espace. Dieu est toujours proche de nous. Mais ça dépend quelle impression il nous donne. Est-ce qu'il nous donne l'impression d'être proche de nous ou loin de nous? Quand il nous donne l'impression d'être loin de nous, ça crée pour nous, ça crée un espace. Donc si ça crée un espace, ça crée du temps. Donc ça veut dire que les choses prennent du temps. Donc, c'est pour ça que la Gemara a dit que les Rechaïm, leur vie est pleine de regrets. Pourquoi elle est pleine de regrets? Parce qu'ils essayent de repartir, mais ça redémarre pas. Pourquoi ça redémarre pas? Parce que, il y a un fossé énorme. Donc, puisqu'il y a un fossé énorme, il essaie de redémarrer, mais quand il voit tout ce qu'il a à grimper, il lâche. Qu'est-ce qui se passe quand il fait de Tshuva? Il remonte d'un coup. Il arrive en haut, Shakadosh Baruch Hu. Là, comme il est proche, ça peut comprendre, parce qu'on a supprimé l'espace. Donc, puisqu'on a supprimé l'espace, on a supprimé le temps. Donc, il n'a pas le temps de lâcher, il n'a pas le temps de se décourager. D'accord? Bon, mais ça, c'est des points qu'on développera dans la suite. J'ai pas envie de trop rajouter sur ça. Ukfi asher ma'amik sirlo. Deve ukfi, on a après le point. Ukfi. Ukfi asher ma'amik sirlo ou machiv dato ou binato. Leit bonan bigdulato itbarer. Azaï merumezet binato. Beot hesh esh la rocha. Donc, dans la même manière, dans la communication que nous avons avec Akadosh Baruch Hu, on retrouve les mêmes quatre éléments. Le premier élément, c'est quoi? C'est le flash, on l'a bien compris. Le deuxième élément, c'est quoi? C'est quand je prends ce flash, et je vais essayer de le développer. De le développer, ça veut dire quoi? C'est-à-dire essayer de réfléchir. D'accord? Essayer de réfléchir avec le hé. Le hé, on a expliqué, il a horaire et rochav. Horaire, en hébreu, ça veut dire quoi? Ça veut dire la longueur. Rochav, ça veut dire la largeur. Donc, shesh la rochav, vegam horaire, amore, amshacha, milmala, limata. Il a d'abord la largeur, ça veut dire quoi la largeur? Ça veut dire que le flash que j'ai eu de communication avec Dieu, je vais essayer de le développer. C'est-à-dire, à un certain moment, j'ai eu un sentiment que j'ai envie de m'approcher de Dieu. Très bien. Qu'est-ce que j'en fais, ce sentiment-là? Est-ce que je laisse juste à l'étape du flash? Il va s'envoler. Donc je vais essayer de prendre et de réfléchir de manière concrète. Comment je peux m'améliorer? Ça s'appelle en largeur. En longueur, c'est quoi? C'est comme a dit la définition qu'a donné Dan, c'est-à-dire projeter vers l'avenir. Comme il dit ici, vegam horer amore amshacha milmala lemata. C'est-à-dire qu'on va essayer de le faire descendre vers le bas. Léolid, Nibinato, Veit Bonunuto, Bigdoulat, Hashem, Ahava, Veira. Ça veut dire que suite à cette réflexion, qui était issue, on a expliqué du flash, qu'est-ce qui va se passer? Suite à cette réflexion, la personne va donner naissance à un sentiment d'amour et de crainte. Rappelez-vous dans le business plan. D'accord, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Une fois que j'ai bien compris le projet, que le projet est clair dans ma tête, après je vais commencer à m'attacher au projet, c'est-à-dire je vais commencer à développer un sentiment envers le projet. Je vais aimer certaines choses, je vais ne pas aimer d'autres choses. C'est-à-dire je vais commencer à avoir des sentiments pour ça. De la même manière pour Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire, ça c'est un point très très important qu'on explique dans Chassidut Rabbah, que tout démarre par la compréhension, tout démarre par la logique. S'il y a des gens qui pensent qu'ils vont commencer, ils vont boire une potion magique, et tout d'un coup, ils vont se mettre à sentir, à danser, à aimer, à craindre Dieu, ça marche pas comme ça. D'accord? Ça s'appelle la cocaïne, d'accord? Et c'est comme un flash, ça marche pour quelques instants. Ça marche pour quelques instants, et ça sert à rien. D'accord?
Donc, ils réclament une
cacahuète. Ben, on va relancer la quête, si vous voulez. Hein.
Après le cours. Après le cours, on relance la quête.
Il n'a pas bien compris le hé là.
Alors attends.
Pour voir l'avenir, ça veut dire quoi pour voir l'avenir?
Le hé, ça veut dire quoi? Ça veut dire, le hé, on a expliqué, c'est-à-dire, c'est quand je prends ce flash que j'ai eu, et j'essaye de le projeter vers l'avenir. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens qui pensent que comment ça se passe la teshuvah, on va plonger et ça va marcher. D'accord? Bon, alors ça, c'est peut-être valable pour démarrer, peut-être. Mais après, une fois qu'on est en vitesse de croisière, ça marche pas comme ça. Ça, c'est Chassidut Rabbad. Il y a d'autres avis qui pensent pas comme ça. Il y a d'autres avis qui disent, non, tu plonges, t'inquiète pas, après ça ira, tu te débrouilleras, tu vas patauger un peu, tu vas te débrouiller. Chassidut Rabbad, on dit, bon, c'est sûr qu'un juif doit continuer à faire Torah Mitzvot. Mais tout démarre par la préparation. C'est-à-dire qu'on peut pas avoir un sentiment d'amour et de crainte qui vient comme ça. Et si une personne comme ça, tout d'un coup, il a un sentiment d'amour et de crainte, c'est forcément, en général, un sentiment d'amour et de crainte fictif.
Artificiel.
C'est pas un vrai sentiment. D'accord? C'est quelque chose qui va s'en aller. C'est la même chose on a dans les relations entre un homme et une femme. Quand c'est quelque chose qui vient de manière très rapide, c'est quelque chose qui va forcément partir très rapidement.
D'accord?
Oui, mais le coup de foudre, il partira aussi vite qu'il est venu.
Non, j'y crois pas.
D'accord? Ah si?
Je crois pas. Et Frank et Rivka.
Attends?
Coup de foudre.
Non, mais
direct.
Alors, c'est un flash.
Il a 3 ans, il a 48 ans.
Mais il faut développer et il faut projeter.
Contraire.
C'est ça ou
contraire?
Pourtant, le rabbi dit
c'est
que
préparé,
ça,
j'arrive
pas à comprendre.
Bon, ça c'est un autre sujet. Ça c'est un autre sujet.
Vous avez plus de 10 ans.
Yitzhak et Rivka, c'est une bracha particulière d'Abraham. Abraham a dit que Dieu Ishlach Malachol Fanecha. Abraham à Eliezer, il lui a dit que Dieu envoie son ange devant toi, pas avec toi, devant toi. C'est-à-dire qu'Eliezer a une bracha que le chemin était préparé devant lui. Il avait rien à faire.
C'est le chichi d'aujourd'hui.
Il n'avait rien à faire. Ça veut dire qu'il n'a même pas eu le temps de finir cette fille-là.
Qu'elle est apparue.
Elle était déjà là. Mais c'est-à-dire pour qu'elle soit là. C'est-à-dire qu'elle est sortie de chez elle. Pas tout de suite. Ça fait longtemps qu'elle est sortie de chez elle. C'est-à-dire que Dieu voulait lui dire, bon, tu crois que tu fais cette fille-là, moi je t'ai déjà préparé le terrain depuis longtemps. Parce que la bracha qu'Abraham a donnée à Eliezer, c'est Ishlach Malachol Efanera. Et tous les chidours de Yitzhak et Rivka, de A à Z, étaient un chidour qui était propulsé par le ciel. Donc ça, c'est autre chose. Ça, c'est, bon, c'est une parenthèse. Donc je reviens à notre sujet. D'accord.
Mieux qu'elle soit jolie, c'est quand même mieux. Mmh. Quand même mieux qu'elle soit jolie. Quand même Jacob, quand Jacob il a préféré.
Non. Où c'est écrit que Rivka était jolie?
D'ailleurs, c'est écrit dans le, quand Eliezer il a vu.
Où c'est écrit?
Je te fais dire quand Eliezer l'a vu, il a fait une remarque qu'elle était jolie.
Il
a fait une remarque Eliezer qu'elle était jolie.
Est-ce que vous avez remarqué aussi dans l'histoire, puisque j'ai ouvert la parenthèse, vous avez remarqué que Eliezer a donné les bracelets. Eliezer a donné les bracelets à Rivka avant même de lui demander son nom.
Parce qu'il savait que
c'était. Ah non. Non. Il a demandé à Dieu. Il a dit, Dieu, je te demande un signe. D'accord? C'est quoi le signe qu'il a dit à Dieu?
La première.
Elle me dit, d'accord, je demanderai à boire, elle me dira, bois-toi et je donnerai également à tes chameaux. Ça sera celle-là. C'est ce qui s'est passé. Il a demandé, mais il n'a pas demandé son nom encore. Dès qu'il a vu ça, tout de suite, il prend les bijoux, les diamants, il lui pose dessus. Après, il lui dit, comment tu t'appelles? D'accord? Elle lui dit, je suis la fille de Bethuel. C'est-à-dire quoi? Il a mis les bijoux sur elle avant même de lui demander son nom? C'est pas responsable, c'est quoi cette histoire?
Le fils du frère de
Laban. Ça, c'est la réponse. Le verset nous raconte, il nous dit que la fille qui est sortie était. Mais Eliezer ne le savait pas parce qu'il va lui demander après, il va lui dire qui tu es, il va lui dire voilà, et là après, il va l'inviter à venir voir son père.
C'était déjà fait.
D'accord? Ça veut dire que c'était déjà fait. C'est. Bon.
À la naissance déjà.
Il a posé la question, il est parti pour la réponse. Hein? Rudy.
C'est un animal ça.
Il a commandé une pizza.
Rudy. Combien de pizzas t'as commandé? C'est
quoi?
Tu sais ce que ça s'appelle? Ça s'appelle en hébreu l'oeg l'arrache. L'oeg l'arrache est écrit dans le Shulchan Aruch que lorsqu'on rentre dans un cimetière, on doit cacher ses petites bites. Pourquoi? Parce que sinon tu te moques d'un pauvre. Parce que lui, celui qui est dans le cimetière, il peut pas mettre les petites bites. Toi, tu lui montes les petites bites, tu lui fais du ciel à ta vie, moi j'ai les petites bites. La même chose, t'es en train de te moquer des pauvres. Tu viens nous amener une pizza ici, tu vas manger ta pizza?
Non, c'est pas ça. Je crois qu'on va pas te regarder.
Tu crois qu'on va pas te regarder?
Bon appétit. Bon. Donc, je reviens. Et ça, c'est un point très important. Que les choses ne se font pas toutes seules. Faut pas attendre que les choses... Encore une fois, ça veut pas dire qu'il faut arrêter de faire les mitzvot. Ça veut pas dire ça. Mais ça veut dire que si on veut avoir un sentiment d'amour et de crainte, un vrai sentiment d'amour et de crainte, ça doit démarrer par une préparation. Sinon, comme on vient d'expliquer, si ça vient pas par une préparation, c'est forcément un sentiment qui est artificiel. Un sentiment qui partira, comme le coup de foudre est en train de dire. Quelque chose qui vient vite, part vite. C'est un principe. D'accord ? C'est-à-dire que si j'ai eu un flash et que je ne l'ai pas pris, il partira aussi vite qu'il est venu. Si j'ai eu un coup de foudre, il partira aussi vite qu'il est venu. Il partira. La seule chose durable, c'est quoi ? C'est ce qui est venu avec le temps. On s'est travaillé, on essaie de réfléchir, de chercher les points, les différents détails. C'est ça ce qui va tenir. Ça tient. D'accord ? D'accord ?
Et après, tu travailles...
Très bien. Ah, d'accord. Donc ça peut démarrer d'un coup de foudre, mais si c'est pas préservé avec un hé par derrière qui va dire en vérité dans le coup de foudre, j'avais pas vu qu'il y avait ce détail, et qu'après il va en faire un monde, d'accord, et qu'il va projeter ce qui, d'accord, et développer, etc. Là ça va marcher. Mais s'il en reste au coup de foudre, le coup de foudre il va partir. Non. La préparation, on a expliqué qu'en vérité c'est inné. Un juif il a ça en lui déjà. La communication avec Dieu, un juif il a ça en lui. Il n'a pas besoin de... C'est de série. Il n'a pas besoin de rajouter cette option. Ça veut dire que... Si, il vient comme ça, mais... C'est pas moi qui le crée le flash. C'est déjà inclus en moi. Dans notre Neshama, il y a déjà ce système-là. D'accord ? On continue. Donc, Okfi, Asherma, Mikfirlo, Machiv... Non, où on en était ?
Et le Makom, il fait pas qu'on a plus de flash ou pas ?
Après, il y a plusieurs, comme je disais tout à l'heure, après, il y a plusieurs, ça c'est la forme après. Nous, on est dans le fond maintenant. Après, ça c'est la forme. Quel endroit tu vas voir, quelle chose tu vas voir. Même les psychologues aujourd'hui, ils ont du mal à savoir qu'est-ce qui fait qu'une personne se rappelle de quelque chose. Il y a des tas de facteurs. Ça peut être une musique qu'il a entendue, ça peut être le fait qu'il a marché de la même manière qu'il avait marché la dernière fois. Ça peut être qu'il a cligné les yeux autant de fois qu'il avait cligné. Ça peut être des tas de choses qu'on ne sait même pas. Il y a des centaines de phénomènes qui peuvent... Ça peut être un parfum. Non, mais ça peut être des choses encore plus compliquées qu'un parfum. Ça peut être même voir une personne marcher de la même manière que j'avais vu la personne marcher quand j'étais enfant. Mais c'est même pas la même personne. C'est juste la même démarche.
Et c'est la même chose.
C'est des choses qu'on ne maîtrise même pas.
C'est la même chose pour les rêves. C'est un flash aussi, les rêves, ou pas?
Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'accorde pas d'importance aux rêves.
Parce qu'il y a des choses... Tu fais des choses dans des rêves. Vraiment, c'est des flashs que tu veux faire.
Aujourd'hui, on dit qu'en général...
Non, pas spécialement. Non, mais il y a des rêves où tu fais des choses que tu veux.
Aujourd'hui, on dit que. Aujourd'hui, on dit qu'une personne rêve, en général, de ce qu'il a réfléchi pendant la journée. Il y a toujours un rapport. Il y a toujours un rapport. Non, c'est pas le film de la journée, mais il y a toujours un rapport entre ce qu'on rêve et ce qu'on, ce qu'on a fait pendant la journée. Il y a toujours, si tu veux, le rêve, c'est toujours une caricature. Ouais. D'accord, une caricature d'un point qu'on a vu pendant la journée, un point qui nous a peut-être embêté ou qui nous a fait réfléchir. Parce que le rêve, c'est quoi ? À quoi ça sert le rêve ? Le rêve, c'est une chance extraordinaire que Kadosh Baruch Hu nous a donnée. C'est que des fois, notre cerveau, il voit des choses et ça le stresse énormément. D'accord ? Et la seule manière de déstresser, c'est quoi ? C'est de prendre le point qu'il a vu et de le décortiquer, de le mettre en mode caricature, tu vois, de le voir de la manière la plus grosse possible. Et c'est ça va le calmer. Par exemple, tu vois, il a vu... C'est quoi une caricature ? C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un, il a une petite tache sur le nez, tu vas lui faire un nez énorme comme si que le nez il couvre la tête. C'est ça le rêve. Mm-hmm. Ça veut dire qu'on va prendre un petit point qui s'est passé pendant la journée, et on va en faire une caricature. Ça tranquillise le cerveau. Ça enlève le stress qu'il y a dans le cerveau. Parce que le cerveau, avec ces détails-là, ça le fatigue. Et là, quand on prend ces détails et on les décortique, ça repose le cerveau. C'est une chance extraordinaire. Bon, on fera un jour, Bezrat Hashem, la Gemara, Brachot. Il y a aussi dans le Tania sur les rêves. On ne sonne pas pour les rêves ? Pas au courant.
Des mauvais rêves.
Ah non. Aujourd'hui, on jeûne. Et encore, il y en a qui jeûnent seulement s'ils ont jeûné trois fois le même rêve. Et encore, on demande à un rêve. On jeûne pas comme ça pour un rêve aujourd'hui. On a encore plus d'importance au rêve.
C'est comme ça, mais j'ai dit que ça arrive, qu'ils demandent de jeûner.
Il y a une personne ici qui a déjà jeûné pour un rêve ? T'as déjà jeûné pour un rêve ?
Non, on a jeûné pendant un rêve.
Il demande un rêve et
la majorité. Aujourd'hui, on jeûne pas. On n'a encore pas d'importance au rêve. Parce qu'aujourd'hui, à l'époque, les Neshamot avaient un niveau tellement fort qu'ils étaient capables, au travers du rêve, de communiquer avec Dieu. Mais aujourd'hui, le rêve, en général, c'est juste une caricature de la journée. C'est un phénomène purement naturel.
Le rêve, il peut être une transcription de ce qu'on a...
C'est un phénomène qui relaxe le cerveau de l'homme.
Avec tous les films, tous les machins. Avant, ils n'avaient pas, ils étaient chez eux. Donc, s'ils avaient un rêve bizarre, c'est que ça venait quelque part.
Il y a un nom, on m'a donné une fois le nom en psychologie. Il y a un nom en psychologie, quand une personne, il y a un phénomène qui le dérange, d'accord, on va prendre ce phénomène et on va l'amplifier. Par exemple, des fois, quelqu'un, il avait un petit défaut quand il était enfant. Et ce petit défaut le dérange. Il le dérange très profondément, mais il ne le sait pas. Ça le dérange très profondément. Qu'est-ce qu'il va faire le psychologue ? Il va prendre ce défaut et il va l'amplifier grave. Pour lui montrer que finalement, c'était pas un ours si grand, ce qu'il avait l'impression. Et pour le faire, on est obligé de l'amplifier. C'est la caricature. C'est ce qui se passe dans un rêve.
C'est ce qu'on fait avec les gens qui ont peur de l'avion.
Oui.
On les met dans une situation encore plus stressante.
Encore plus stressante. Comme ça, ils comprennent que finalement, c'est une technique qui est utilisée.
Voilà. Le mal par le mal.
Voilà. Comme l'antibiotique. Exactement. L'antibiotique, c'est exactement le concept d'antibiotique. Vegam. Donc Leolid Mibinato Veit Bonenuto, bon on va pas s'échapper, on va essayer de rester dans le même sujet. Donc Leolid Mibinato Veit Bonenuto, Bigdulat Hashem Ava Veira Vetonotem, Bemocho Vetalumot Libo, Veacharkar Bifrina Titgalut Libo. De la même manière qu'on a expliqué dans le business plan, dans la création, qu'il y a le hé et il y a le vav. C'est quoi le hé? Le hé c'est le développement mental, le vav c'est le développement, on a dit, sentimental. D'accord? Le hé, c'est le développement mental. Le business plan, c'est-à-dire, je le développe dans ma tête. Ça reste dans la tête. Le vav, c'est le développement sentimental. C'est, je vais le développer à l'intérieur. D'accord? Je vais commencer à vivre la chose. C'est exactement la même chose dans le judaïsme. Quand j'ai un flash, j'ai envie de mieux me comporter. D'accord? Il faut pas s'attendre tout de suite à des sentiments. Bien sûr qu'une fois qu'on a fait, là, on parle d'une personne qui a déjà fait tchouva, qui est dans une vitesse de croisière. Une personne qu'on essaie d'attirer à faire tchouva. Bon, après, peut-être, on va essayer de trouver des moyens pour l'attirer. Mais une fois qu'il est déjà en vitesse de croisière, il y a un ordre. L'ordre, c'est que, d'abord, il y a un flash. Le flash, il te donne l'idée, il te montre ce qui va se passer à la fin. Il te montre le chemin que tu as à faire. Ça, c'est le flash. Une fois qu'il y a le flash, après, il doit venir une deuxième étape, qui est l'étape de la compréhension. Et c'est une étape qui est purement froide. C'est une étape qui est froide. Parce que la personne va réfléchir de manière posée et réfléchie. Comment je vais aimer Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'en Chassidut, on accorde beaucoup d'importance, souvent quand on vient au cours de Chassidut, on voit que on essaie d'expliquer différents phénomènes qu'il y a dans le monde. Différents phénomènes, différents aspects d'Akadosh Baruch Hu, différentes choses. On essaie d'expliquer. D'expliquer de manière froide. D'accord? D'autres courants dans lesquelles on va essayer tout de suite d'essayer d'éveiller un sentiment chez l'homme, un sentiment de crainte ou d'amour. C'est-à-dire tout de suite, on va essayer de toucher au sentiment. En Chassidut, vous voyez qu'on touche très très peu au sentiment. Parce qu'on part de la base que les sentiments, ils viendront d'eux-mêmes. Le flash, il est automatique, ça on l'a expliqué, c'est de série, d'accord? Et le point le plus important sur lequel on va bosser, c'est le hé, le premier hé. Parce que le premier, c'est là qu'on va prendre le point et on va le décortiquer. Et c'est pour ça qu'en Chassidut, on fait que ça. On travaille pas trop sur les sentiments, parce qu'on considère que le sentiment ne peut venir seulement une fois qu'on a bien compris la chose.
Pourtant, il y a des Chassidut avec Ratat, Ragat
bien.
Et...
bien, c'est pour ça que j'ai dit Rabat, j'ai prévenu tout de suite. D'accord? La différence est très simple. L'Admor HaZaken, il explique dans l'introduction de l'Écouté Amarim. L'Admor HaZaken explique dans l'introduction de l'Écouté Amarim, il dit que le chemin de Chassidut Rabat, c'est un chemin qui est derer Arucha Uktara. C'est un chemin qui est long, mais court. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, la Gemara elle raconte, d'accord? Elle raconte, il y avait une histoire qu'il y avait une fois, Rabbi Yochanan, marchait dans la route, et à un certain moment, il arrivait à une intersection. Il sait pas s'il devait prendre à droite ou à gauche. Donc il a posé la question à un enfant qui était là-bas, Yenuka. Il a dit, je vais à droite ou à gauche. L'enfant lui a dit, prends ce chemin. D'accord, alors l'enfant lui a posé la question, il a dit, est-ce que tu veux le chemin court ou le chemin long? Alors lui, il a entendu le mot court, il a dit, le chemin court. Il a pris le chemin court. Il revient quelques heures ou quelques minutes plus tard, il lui dit, c'est quoi ce chemin? Tu m'as dit, je suis arrivé devant la ville. C'est vrai qu'il était court, je suis arrivé vite devant la ville, mais devant la ville, il y avait des murailles partout, je ne peux pas rentrer, impossible de rentrer. Alors il dit, ah, je vous ai prévenu. Il dit, c'est un chemin qui est court. Alors je vais vous expliquer. Il y a un chemin qui est court, mais long, et il y a un chemin qui est long, mais court. Ça veut dire quoi? C'est très simple. C'est qu'il y a un chemin que toi tu crois qu'il est court, mais en vérité, il est long, parce que c'est quelque chose qui ne tient pas. Donc toi tu crois qu'il est court, tout de suite on arrive à des sentiments express, mais ça ne tient pas. Donc finalement, c'est un chemin qui est long, parce que tu n'aboutis à pas grand-chose. D'un autre côté, il y a un chemin qui est long, qui est très long, c'est un chemin d'une vie entière, et chaque fois on essaye de rajouter encore un point, on sent que la tête elle change, mais ça prend beaucoup de temps. Mais par contre, ça c'est un chemin qui est court. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on a réussi à gagner quelque chose, ça bouge plus. Ça s'appelle Derech Arucha ou Ktsara. C'est ce qu'on est en train de faire ici. Ça c'est l'achat de Chassidut Rabat. C'est ce qu'on est en train de faire ici. C'est le Hé qui amènera le Vav. Le Yud, il est inné. Ça on a dit, c'est le flash. Après c'est le Hé. D'accord? Le Hé, c'est-à-dire qu'on accorde beaucoup d'importance à la compréhension. C'est pour ça que Chassidut Rabat, c'est quoi Rabat? Chochma Bina Daat. D'accord, beaucoup d'importance à la réflexion. Encore une fois, ça veut pas dire qu'on passe pas à l'action. D'accord, parce qu'au contraire, par exemple, pour attirer des gens à la Torah, on va les faire passer directement à l'action, on va leur mettre les tefillines, etc. C'est pas de contradiction. À tel point que tu prends une personne standard dans la rue, tu lui demandes c'est quoi Chabad, il va pas se douter que dans Chassidut Chabad, il y a une telle profondeur comme ce qu'on peut étudier maintenant. Il va croire Chabad, oui, c'est des gens, croiser les tefillines, ils mettent les tefillines des gens dans la rue. Parce que justement, les deux ne se contradisent pas du tout. Il y a le hé, le dernier hé. Le dernier hé, ça, c'est justement c'est une méthode peut-être pour attirer les gens à la Torah. Mais quand on prend la méthode de croisière, la méthode normale, c'est le flash qui amènera la réflexion, qui amènera les sentiments, qui amèneront l'action. C'est comme dans le business plan, ça. Il y a un ordre. On ne peut pas sauter les étapes. Quand on saute les étapes, ça ne tient pas. Ce qu'il explique ici.
Et ceux qui deviennent rabat du jour au lendemain, quand on a vu beaucoup, ils ne sont pas rabat en réalité. Ceux qui ont le problème,
ils n'ont pas encore fait la réflexion. Peut-être qu'ils ont été attirés par un hé. C'est possible.
Ils n'ont pas fait la réflexion.
Il a dit tout à l'heure qu'on peut sauter les étapes. Et que
ça marche. Ça, on n'a pas parlé. Ça, c'est la tchouva. On verra après. Bon, on n'a pas encore parlé de ça.
Ouais.
Donc il explique ici.
on parlait de personnes en particulier.
Non, mais il a dit qu'on pouvait.
Vous voyez, donc dans les mots. C'est tellement beau comment la Mourazaken l'exprime. Regardez, je veux relire parce que c'est tellement.
Il s'est senti bien.
C'est tellement beau la richesse des mots de la Mourazaken.
C'est un cours, mais il est long.
Azak. Regardez, on va relire ensemble depuis le point. Oukfi Asher Mahamik. Parce que c'est tellement beau comment la Dmora Zaken.
Alors tu vas pas prendre le chemin long.
Ouais, je refais.
Mais il est court. Il est où, Tantania?
Tantania, j'ai préféré lui donner mon frère juif.
Ah, venez, suivez Adel. Regardez, vous avez Oukfi Asher Mahamik.
On verra quand la pizza va arriver.
Attends. Oukfi Asher Mahamik. Voilà. Venez, comme ça on avance, on va finir.
Bon.
Je vais relire encore depuis Oukfi parce que c'est.
En plus, il n'y a pas court la semaine prochaine.
Oui, pourquoi pour pas court.
T'as pas un kinouche?
Non, c'est pas lundi que je voyage. Ah. Je voyage jeudi.
Ah, il va sauter. Non,
je pensais que c'était hyper tôt.
Je pars, mais c'est le lundi d'après qu'il n'y aura pas court.
Ah, il n'y a pas court.
Alors, on va relire dans les mots. Vous allez voir comment c'est extraordinaire comment la Admor Azaken développe l'idée qu'on vient d'expliquer dans les mots. Comment chaque chose a un ordre et comment les choses prennent du temps et comment tout démarre par la compréhension. Regardez. Il dit, Oukfi Asher Mahamik Firlo. Plus la personne va approfondir son cerveau. C'est-à-dire qu'il va approfondir, il va chercher à approfondir dans sa tête. Ça reste, c'est froid pour l'instant. Ou Mahrib Dato. Et qu'il va élargir sa connaissance. Ça veut dire qu'il va essayer de rentrer dans les détails. Mais c'est encore froid. Ou Binato. D'accord? Donc il va essayer donc justement de Bina Dat. Ça, on a expliqué plusieurs fois. Bina Dat, ça veut dire, il va essayer de s'attacher à la chose, et il va surtout essayer de la développer dans les détails. Leïd Bonen, qu'est-ce qu'il va faire? Leïd Bonen, Bigdoulato Idvarer, en communiquant avec Dieu, il va tout d'abord réfléchir, c'est purement logique, c'est froid. Il va réfléchir, Bigdoulato Idvarer, il va analyser la grandeur de Dieu. C'est une analyse purement logique. Il n'y a rien encore de, il n'y a aucun aspect sentimental. Azaï, à ce moment-là. Mais Roumez Adbinato, au moment de cette analyse froide, logique, d'accord? À ce moment-là, dans la Bina, d'accord, on a l'allusion Beot He, on retrouve ça dans la lettre He, Shiyesh la Rochav, qui a une largeur, Vegam Orer. Ça veut dire quoi, messieurs? Amore Amshacha Milmala Lemata. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne va se mettre à développer. Mais c'est encore dans sa tête, c'est encore froid. Il va se mettre à développer dans les détails, mais c'est pas seulement développer en largeur, c'est développer aussi en longueur, c'est-à-dire qu'il va projeter vers l'avenir. C'est-à-dire quoi projeter vers l'avenir, explique la Admor Azaken. Ça veut dire qu'à terme, Léolid mi binato, veit bolinuto, bigdulat hachem, il va faire naître de cette compréhension et de cette réflexion dans la grandeur de Dieu qui était purement froide. De ça va naître par la suite, ahava veira, l'amour et la crainte, vetol dotem et leurs dérivés. Bemocho vetalumot libo, d'accord? Il va les faire, donc ça va être, tout d'abord, c'est un sentiment qui sera tout d'abord caché en premier temps. Vacharkar viprinet et galut libo, et c'est seulement après que ce sentiment sera dévoilé. C'est-à-dire qu'on va se mettre à réfléchir à la chose. On va réfléchir à un tel point que dans ma tête, je vais m'attacher à la chose. C'est-à-dire que des fois, on peut avoir un sentiment dans la tête, mais c'est pas encore un vrai sentiment. Et c'est seulement après que le sentiment va commencer à se transformer en sentiment physique. Vous savez, ça nous arrive quand des fois, on réfléchit à quelque chose, on réfléchit à un tel point qu'on a un sentiment. Ça peut être une impression, ça peut être un sentiment mental. C'est possible, d'accord? Parce que des fois, on se dit qu'on doit aimer, on finit par aimer. C'est un sentiment mental. Mais
c'est
à force...
C'est qu'on arrive à se convaincre.
Oui, on arrive à se convaincre. Donc, tu as comme un sorte de pseudo-sentiment mental. Mais ce sentiment mental finira par donner naissance à un sentiment sentimental. D'accord? Va harka du prinat et du galou kubo. Ou misé, et de ça, nimshecha avoda amiti besek a Torah ve a mitzvot, be kol ve dibur o maase. De là explique l'Admor Azaken. De là va venir avoda mitit. Ça veut dire sur quoi avoda mitit? C'est-à-dire le vrai travail. Regardez comment on appelle ça le Morazakaïn. Ouais, la vraie manière de servir à Kadosh Baruch Hu. Ça veut pas dire que les autres sont fausses, mais ça veut dire que celle-là, elle est vraie du sens que quand on dit vrai, émettre, ça veut dire, ça veut pas dire seulement vrai, c'est quelque chose de constant.
Authentique.
Authentique, mais constant. D'accord? Comme explique la Gemara, elle dit, qu'est-ce qu'on considère quelque chose de émettre? Quand la Torah, qu'est-ce qu'on considère quelque chose de émettre? Quelque chose de émettre, c'est quelque chose qui ne change pas. Comment ça se fait que la Torah, comment ça se fait qu'aujourd'hui, on garde les mêmes interdictions qu'il y a 2000 ans? Pourtant, le monde a changé, donc si le monde a changé, la Torah aurait dû changer. La réponse est très simple, parce que la Torah est Torah Emet, une Torah de vérité. Or, la vérité ne peut pas changer. La vérité n'est pas, ne peut pas s'adapter. D'accord? La vérité n'est pas relative. La vérité, c'est quelque chose d'absolu. De la même manière. D'accord? Un sentiment qu'on va avoir, c'est pas quelque chose de relatif. Relatif à la cocaïne qu'il a pris, ou relatif à la personne qui lui a parlé. D'accord? Ça va marcher peut-être pour quelques secondes, quelques minutes, quelques heures, quelques jours. C'est-à-dire que bon, on va dire que c'est une personne que l'entrain qu'il aura pour Torah Mitzvot sera relatif à l'encouragement qu'il a eu. Mais s'il n'y a pas de travail interne, ça ne sert à rien. Même à l'époque, quand les chassidim allaient chez le rabbi, d'accord, ils venaient chez le rabbi, et on va dire pendant les fêtes de Tishri, c'est un moment de dévoilement extraordinaire, un moment dans lequel c'était un flash extraordinaire. Toujours les chassidim, ils disaient que si la personne ne prend pas ce flash-là et n'essaye pas de le décortiquer, de le développer dans l'année, il perd son temps. Ça va partir aussi vite que c'est venu. Parce que c'est un flash, c'est pas avoda amitit. C'est pas un vrai travail. L'Admor HaZaken, il a écrit dans Yamiom que l'Admor HaZaken, il a dit que s'il n'avait pas exigé le émet de ses chassidim, un peu comme ce que mon père a dit ce Shabbat, le émet, c'est pas la fausse humilité. Si l'Admor HaZaken n'avait pas exigé le émet de ses chassidim, il aurait eu 50 000 chassidim en plus. Pour les chiffres de l'époque, c'est un peu comme si je dis 100 fois plus de chassidim. D'accord, c'est comme si je vous dis, voilà, au lieu d'avoir, je sais pas comment c'est comme, d'accord, voilà, d'accord, mais l'Admor HaZaken a dit qu'il a exigé le émet. Il exige beaucoup de émet, de pnimiyut. Ça veut dire quoi le émet? Ça veut dire qu'en chassidut, on explique, ça justement, c'est quelque chose qu'on va développer beaucoup dans les Guérata Tchouva, on développera aussi dans la suite. On demande beaucoup de pnimiyut. Pnimiyut, ça veut dire d'introspection intérieure. Le mensonge est interdit. D'accord? L'intégrité, c'est très important. On n'a pas le droit ni de mentir aux autres, ni de se mentir. D'accord? Ça veut dire que cela jouer, se faire passer pour quelqu'un, penser qu'on est quelqu'un, ou faire croire qu'on est quelqu'un, ça c'est banni. Pourquoi c'est banni? Parce que justement, ce qu'on a rien expliqué, que dans le Emet, ça n'existe pas. Dans le Emet, il faut combattre tout ça, il faut enlever tout ça. Et c'est ce qu'il dit l'Admor HaZaken. Il dit, si tu viens directement, tu dis, je veux un sentiment de Ahava, de Ira, je veux un sentiment d'amour et de crainte, qu'est-ce qu'on te dit? Ce sentiment d'amour et de crainte, comme ça, instantané, ne tiendra pas. Ça veut pas dire qu'il est faux. Attention, il n'est pas faux.
Mais il tient pas.
Mais il tiendra pas, il partira aussi vite qu'il est venu. Si tu veux que ça tienne, il faut avoir une préparation, d'accord? Une préparation logique, d'accord? Structurée, calculée, d'accord? Cette préparation va donner naissance après à un sentiment, et seulement après, quand on passe à l'acte, ça tient. Sinon, ça tient pas. Sinon, ça tient pas.
Dans la traduction que j'ai en français,
oui.
Il fait la distinction entre la partie cachée du cœur,
oui.
Qui est directement liée dans la réflexion,
oui.
Et ensuite, de l'amener le sentiment de crainte et d'amour, et ensuite, ça va passer dans la partie du cœur.
Oui, hein, alors moi, j'ai expliqué la partie cachée, la partie dévoilée, j'ai dit, c'est le sentiment un petit peu fictif, d'accord, et le sentiment qu'on sent dévoilé dans notre cœur. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais.
C'est-à-dire que des fois, on ressent un sentiment, mais on sent qu'on on le ressent pas encore. Parce que finalement, tout est... Je peux dire que c'est une impression. Tu t'es mis en condition, quand il s'est mis en condition, dans une condition romantique avec Dieu, donc du coup, il aime Dieu. Mais il s'est mis en condition. S'il n'y avait pas les conditions, il l'aurait pas aimé. D'accord? Donc ça veut dire que ça, c'est un sentiment qu'on appelle un sentiment profond, mais qui n'est pas forcément dévoilé. Un sentiment dévoilé, c'est quand on arrive à ressentir la chose, même sans se mettre en condition. Ça, encore une fois, ça ne vient pas en une minute, en un jour, en un an, ça vient en une vie. C'est un travail d'une vie entière. C'est seulement des années et des années plus tard qu'on sent que, quand on, à force d'avoir étudié, le cerveau a changé.
Le sentiment, il d'accord. Vient avant la fin de sa vie, puisqu'on doit passer à l'action.
Oui, c'est encore une fois, c'est ce qu'explique l'Admor HaZaken. Tu as raison, ça veut pas dire ce que j'explique au début du cours. Ça veut pas dire qu'il faut arrêter de faire les mitzvot, ça veut pas dire ça. Mais ça veut dire que c'est à très long terme que ça se passe. Que notre tête ne change pas en un coup.
C'est pas toute une vie, puisqu'on doit...
On continue à travailler.
Oui,
ça veut dire comme ça. C'est-à-dire que par exemple, chaque année, chaque jour, tu vas buter sur les mêmes choses. Mais le fait de buter chaque jour sur les mêmes choses, chaque fois tu vas avancer un petit peu, mais tu te rends pas compte. C'est seulement si tu avais la possibilité de faire le point sur comment j'étais il y a 5 ans et comment je suis maintenant, que là tu peux dire, ah, j'ai avancé. Parce que chaque fois que tu butais et que tu recommençais et que tu essayais, chaque fois ça a toujours s'avançait un tout petit peu. T'as pas eu des sentiments, il y a pas eu de cinéma ici, on n'a pas fait de Spielberg. Quand il n'y a pas eu d'effets spéciaux. Les effets spéciaux, si tu veux en chercher, c'est pas ici qu'il faut les chercher. Il n'y a pas d'effets spéciaux ici. Ici, ça prend du temps. Ça prend du temps, mais par contre, c'est durable. Ça, c'est clair. C'est des choses qui bougent pas. Mais ça prend du temps. Il n'y a pas d'effets spéciaux.
Tu dis ici qu'il parle de joueurs.
Non, dans la méthode du Tania. Donc, on misait.
C'est pour ça que des fois.
On le retrouve. Ça, c'est un point que Ed Morazaken a expliqué un peu au début de l'écoute à Marim. Mais on le retrouve très fortement dans les Guerres à Teshuvah.
On voit toujours le même fromage.
Pourquoi c'est important à comprendre ça? Parce que tant qu'on n'a pas compris ça, on peut pas comprendre ce que c'est la Teshuvah. Vous voyez pourquoi je m'arrête beaucoup sur ça? Tant qu'on n'a pas compris ce que je viens d'expliquer, que c'est un processus qui est logique, qui est réfléchi, etc. Tant qu'on n'a pas compris ça, on peut pas comprendre ce qu'est la Teshuvah. S'il y a des gens, ils pensent que la Teshuvah, c'est instantané, on va se lever au Sichot, on va dire Dieu, pardon, désolé, je recommence, on n'a rien compris, on est passé directement au dernier hé, c'est pas ça, Teshuvah. Rappelez-vous ce que j'avais expliqué la dernière fois, j'ai dit il y a le hé d'en haut, le hé d'en bas. Pour rappeler, j'avais expliqué une fois.
C'est pour ça qu'on fait 40 jours, parce que c'est un cheminement long.
Je vais vous donner, un preview. Vous rappelez, il y a un mois, on avait expliqué qu'il y a le hé d'en haut, le hé d'en bas dans la Teshuvah. D'accord? Maintenant, on comprend. C'est quoi le hé d'en haut, le hé d'en bas? Le hé d'en bas, c'est l'action. Celui qui dit, bon, ça y est, je me plonge, je fais des mitzvot. Bon, c'est une chose. D'accord? Non! Pas forcément, non? Non! Du style, celui qui vient à une kippour, il décide de faire tchouva, il dit, bon, ça y est, je recommence à faire des mitzvot. Non? C'est le dernier. Ça tiendra, ce que ça tiendra. Une vraie teshuva, ça c'est une teshuva tata. Une seconde, c'est une teshuva d'en bas. Teshuva il a, c'est quoi? C'est une teshuva programmée, une teshuva réfléchie. C'est une teshuva qui dure une vie entière. Et ça, une teshuva comme ça, ça dure longtemps. Mais c'est durable.
Mais ça sert.
Alors, encore une fois, ça dure longtemps.
Ça sert de venir.
Je seconde David. Si... Ça dure longtemps. En vérité, ça dépend d'après ce que j'expliquais tout à l'heure. Avec la notion d'espace, et de temps. Ça dépend. Ça dépend de l'espace. D'accord? Par exemple, on a vu des gens qui ont fait une teshuva tellement extraordinaire qu'ils ont une proximité avec Dieu qu'après tout va très très rapidement. Justement, ils ont supprimé l'espace, donc ils ont supprimé le temps. C'est logique.
Mais chez Rabat, on met bien la cravate avant le costume. Ça veut bien dire ce que ça veut dire.
Oui, encore une fois.
Là, on est bien passé.
Parce que c'est une fois que je.
On a sauté les étapes, mais finalement.
Non, mais c'est une fois que tu vois la cravate, tu dis qu'il.
Parce que si je mets pas la cravate, du coup, je vais rester tout nu et j'ai la fière d'être tout nu. Quand je mets la cravate, ils vont dire attention, je vois pas quelque chose qui va pas. Mais après, il faut tout recommencer.
Voilà.
Bien sûr.
Mais ça a quand même amené une réflexion.
Mais bien sûr. Ça a amené une réflexion, mais après, il faut recommencer. Il faut réfléchir après.
Ah oui, c'est toute une chose.
D'accord. Oui. Qui va créer, mais un peu dans
oui. Si tu veux, le flash était un style de Yud. Ou misé. Donc, dit la Dvorazaken, c'est seulement de là que va venir Avoda Amitit, le vrai travail. Essek Torah Amitvot, dans la Torah et les Mitzvot, Bekol Vedibur Omaase. C'est seulement après que va venir la communication avec Dieu. Rappelez-vous, on parle de communication. On a retrouvé, donc si on pourrait titrer le cours d'aujourd'hui, les quatre étapes dans la communication. Donc, c'est seulement après une fois qu'on a fait les deux premières étapes très importantes dans lesquelles on a compris, on a structuré notre teshuvah, d'accord? Ça s'appelle la teshuvah il'a, la teshuvah d'en haut, c'est la teshuvah de top niveau. C'est seulement qu'après va venir une vraie Torah et mitzvot, ça veut dire quelque chose qui va tenir, quelque chose qui va être durable, dans trois vecteurs. On va parler avec Dieu. Bekol, Vedibour, Omaasé. D'accord? Ça veut dire avec la voix, la parole ou l'action. D'accord? Alors, la voix, la parole et l'action, justement, ça veut dire que on va essayer de parler avec Akadosh Baruch Hu, de communiquer avec Akadosh Baruch Hu dans tous les vecteurs possibles. Et ça, c'est déjà le Vav et le He, le dernier Vav et le dernier He. M, Otiyot, Vav, He, ça correspond à la lettre Vav et la lettre He, c'est-à-dire c'est quand on commence déjà à refaire descendre. Vegam, continue l'Admor Hazaken, Aïd Bonenout, Leavin ou Leaskil, Ba Mitatouk, de la Toïd Barer, Nimshecha Gam Ken Mea Torah, De Raita Mechorma Nafkat, Mechomanafka, Iprinat Yud Shalchem Avaye. D'accord, alors je vais expliquer. Alors, on a dit le Vav et le He correspond à quoi? Le Vav et le He correspond à la parole, à la voix, d'accord? On a dit Kol et Maasé et l'action. D'accord.
Il n'y a pas la pensée alors, et Dibour.
Non, la pensée, c'est oui, Kol, Dibour, Maasé. Alors, l'action, c'est le dernier He. D'accord? L'action, c'est le dernier He. Kol et Dibour, étant donné que c'est pas aussi développé, c'est pas aussi matériel, aussi matérialiste que la pensée, que la parole, que l'action, c'est pour ça que ça inclut dans la lettre Vav. Donc je fais un résumé de ce qu'on a expliqué ici. Et après je vais expliquer ce qu'il y a à la fin parce que c'est un point très important. Donc on a Yud, Ke, Vav, Ke. C'est quoi le Yud? Messieurs, 5 fois. Alors. Ah non, ça fait, il y a eu 5 avertissements là. Non, je plaisante. Non, c'est parce que je suis sûr que c'est très intéressant et je suis sûr que c'est lié au cours ce que vous dites, mais ça dérange peut-être d'autres personnes qui n'arrivent pas à entendre les choses intéressantes que vous êtes en train de dire. Pourquoi tu baisses les yeux, Rudy?
C'est ça, parce qu'il a déjà la 4G, lui, alors il
comprend tout. Ah, t'as vu le commentaire dans, le, dans la suite? D'accord. Il a, ah, il est, ah, d'accord. Bon, ok.
C'est purement matériel.
Dommage à réparation, il faut venir au cours de lundi matin. Alors, donc je reviens. On a Yud et Babakama. On a Yud Ke Vavke. Le dimanche aussi. Yud Ke Vavke. C'est donc pareil. Je vais finir avec ça. Il y a quatre, dans la communication, toujours la communication se base toujours sur quatre étapes. Toujours. D'accord? Il y a le flash, le développement, d'accord, dans l'idée, l'attachement à la chose, quand je m'attache à la chose, d'accord, donc il y a l'aspect mental, il y a l'aspect sentimental, et ensuite seulement on passe à l'action. De la même manière, lorsqu'un juif va communiquer avec Akadosh Baruch Hu, alors on expliquera après, la teshuva d'en bas, ça veut dire celui qui commence directement avec le dernier, commence directement avec l'action, il dit bon écoute, je m'occupe pas de ce que j'ai fait avant, et c'est d'ailleurs ce qu'on demande à quelqu'un lorsqu'il fait teshuva, on lui dit ne t'occupe pas du you, du he, du vav, va, plonge directement avec le dernier, plonge. D'accord. Ça c'est deux secondes. Deux secondes. Non, pas forcément. Non, non. Quelqu'un qui fait tes chouvas hein, et qui lui dit j'ai envie de comprendre mais avérote pour faire tes chouvas, non, tu vas rien comprendre, tu plonges et après tu prendras le temps. Ça veut dire que quand une personne fait tes chouvas, on lui demande d'abord de faire la tes chouvas d'en bas. Ça on l'expliquera après. La tes chouvas d'en bas, ça veut dire quoi? C'est d'abord de commencer à plonger dans l'action. Mais après, pourquoi le roi David il dit je n'arrête pas de faire tes chouvas? Parce qu'après la tes chouvas c'est quelque chose de constant. Il y aura un flash d'abord, un flash constant. Qui me donne envie de revenir vers Akadosh Baruch Hu. D'accord? Ce flash, c'est le Yud. D'accord? Quel rapport avec le Yud? On a expliqué le rapport avec le Yud. Le rapport avec le Yud, parce que le Yud, c'est une lettre qui est concentrée, comme le flash qui est concentré. L'Admor HaZaken ajoute encore un point ici à la fin du chapitre. Il dit, le Yud est comparé à la Torah. Et de la même manière, c'est pour nous apprendre que qui c'est qui peut nous amener ce fameux flash? Ah. Non, non, non. Quand, si il vient pas tout seul, il n'y a pas de flash. Comment je peux le provoquer? Par l'étude. L'étude de la Torah peut provoquer ce flash. C'est pour ça que l'étude de la Torah, c'est pour ça que le Yud est égal au flash. Pourquoi le Yud est égal au flash? Pour deux raisons. Première raison, parce que le Yud c'est compressé, donc c'est comme le flash qui est compressé, qui est tout petit, qui va donner naissance après à tout un développement. Deuxièmement, le Yud, d'accord, et le Yud c'est la lettre qui correspond à la Torah. C'est, on dit que la Torah vient du Yud. Donc c'est pour nous dire que le flash vient du Yud. Mais c'est pas tout. Quelqu'un, il vient à un cours, ah, ça y est, il a été enthousiasmé, bah, au Hachem, il dit, ça y est, je vais changer. Il a eu le Yud. Très bien. Hazak. Il a eu le Yud. Mais ça suffit pas. D'accord? Ça suffit pas. Il faut passer obligatoirement par le He. D'accord? Le He, c'est le développement. Développement, ça veut dire, il va développer, il va faire un plan, il va faire un plan pour essayer de comprendre dans les détails ce qui se passe, et pour essayer de faire descendre ça dans sa vie de tous les jours. D'essayer d'appliquer, de mettre en pratique. D'accord? Dans la vie de tous les jours. C'est seulement après qu'on va passer au vav et au he. C'est quoi le vav et le he? Il a expliqué. Le vav, c'est les mitzvot qui sont liés à la parole. Ça reste encore, c'est comme par exemple l'étude de la Torah. D'accord? Mais l'étude de la Torah, on va dire pas l'étude de la Torah qui est en train de m'enflammer, par exemple la halakha, etc. Ça, c'est déjà un aspect qui, ça veut dire que là, on est déjà en train de descendre, mais on n'a pas encore pris un aspect entièrement matériel. Le he, le dernier he, ça c'est quand je commence directement, voilà, je mets les tefillines à quelqu'un. Alors ce qu'on expliquera après, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que ce dernier hé, tout en étant le dernier, il a la possibilité de donner naissance au premier. C'est extraordinaire. C'est-à-dire ce dernier hé, il a la possibilité de créer un yud.
Parce que c'est lui qui va donner l'étude.
C'est extraordinaire. Non,
parce qu'il va générer le flash.
Ah oui, c'est une boucle. Il y a le système de la boucle. Ça on va expliquer après. Il y a comme une sorte de boucle. C'est que, et c'est pour ça qu'on explique, c'est pour ça que... Quand par exemple le rabbi dit que si une personne met pas, on va aller dans la rue, on met les tefilines aux gens. Il y en a qui vont dire, attends, quoi ça sert? Tu mets les tefilines. D'abord, qui te dit que tu vas aller revoir cette personne? Qui te dit que ça lui a fait quelque chose? Peut-être qu'il va mettre les tefilines parce que tu lui as pris la tête. Et bon, parce que comme ça, il se dit, tiens, je vais essayer une fois. Je veux dire, quelle valeur ça a finalement, le fait qu'il met les tefilines? C'est un hé. C'est vrai que c'est un hé sans le yud, le hé, le vav. Et c'est là la réponse. C'est que la teshuva d'en bas, le hé d'en bas, comme on verra après, il peut générer un Yud. On a vu beaucoup de gens comme ça, c'était des milliers d'histoires. Dizaines de milliers de personnes comme ça qui ont eu un flash, ils savent même pas d'où il est venu, en vérité il est venu parce qu'ils ont mis une fois les tefillines, parce qu'ils sont venus une fois à la synagogue, ou parce qu'ils ont fait une fois une mitzvah. D'accord ? Ça c'est le rôle de Miftsaïm. Donc,
comment ça se fait que parce que tu fais une mitzvah, comment ça se fait que ça peut réveiller le Yud d'en haut ?
Justement, parce que la mitzvah, on prend particulièrement des mitzvot qui sont liées au Hé d'en bas. Des mitzvot très, très concrètes, d'accord ? Parce que, justement, comme c'est en bas, donc il y a un système de boucle. Le Hé peut générer... Ça, on expliquera après pourquoi et comment, d'accord ? Parce qu'on expliquera que celui qui est le plus bas, c'est-à-dire qu'il vient du plus haut. On expliquera après, c'est comme une pierre, d'accord ? Celui qui tombe le plus bas, ça veut dire qu'il vient du plus haut.
D'accord.
D'accord. C'est comme imagine-toi que.
Alors je te dis méthode alors.
Non, regarde.
La mitzvah sur l'étude.
T'expliquer, regarde.
Oui,
imagine-toi. Imagine-toi que je prends deux pierres. Je prends deux pierres. D'accord. Une pierre qui pèse 10 kilos, une pierre qui pèse 1 gramme. Je lâche les deux. La pierre qui pèse 10 kilos, d'accord, elle va faire un trou très profond dans le sol. La pierre qui pèse 1 gramme va faire pratiquement pas de trou. Donc celui maintenant qui voit le résultat en bas, qu'est-ce qu'il va dire ? Qu'est-ce qu'il va dire ?
Pareil.
Non.
Non, c'est pareil, c'est
juste quand celui qui voit le résultat en bas, qu'est-ce qu'il va dire ?
La plume et le marteau sur la lune. La plume et le marteau sur la lune.
Alors, en tout cas. Bon, quoi qu'il en soit. Alors, on revient. Alors, attendez, je reviens. Non. Non, justement. Oui, d'accord. Ou bien, voilà, on va reprendre. Oui, il a raison. On va donner un autre exemple. Il y a une. Non. Les deux pierres ont le même poids.
Et l'accélération par le poids, c'est quelque chose
qui est plus long,
ils sont pas
finis.
Attendez.
Tu prends deux pierres du même poids. Une du même
1 km de hauteur. Alors voilà, oui, il a raison, on va donner cet exemple-là. Tu prends deux pierres, d'accord, Khazak. Tu prends deux pierres, le même poids, voilà, on va faire plus simple. Tu prends deux pierres, le même poids, comme c'est le même concept. Tu prends deux pierres, le même poids. Une, tu la mets à 10 mètres, l'autre, tu la mets à 10 km. Tu lâches les deux. La pierre qui est à 10 km, d'accord, quand elle va arriver en bas, c'est comme si qu'on envoyait un bulldozer. D'accord, ces météorites, elle peut te faire sauter, elle peut te faire un trou dans une maison. D'accord ? Alors que la pierre, l'autre pierre qui est descendue de 10 mètres, elle va rien te faire. Ça veut dire quoi ? Maintenant, celui qui voit le résultat en bas, il va dire, ah, t'as vu, ce trou-là, il est plus grave, ça veut dire qu'il est plus bas. Il dit, mais non, s'il est descendu plus bas, ça veut dire qu'il vient forcément de plus haut.
Oui, oui. D'accord ? D'accord ? Donc on a deux méthodes, on a l'étude ou la mitzvah.
C'est Rudy qui l'a essayé.
Vas-y.
Oui, mais ça on y arrivera dans la suite, je n'ai pas envie de m'arrêter sur ça, c'est pas le sujet du cours d'aujourd'hui. Le sujet du cours d'aujourd'hui, c'est d'expliquer, là on n'est pas en train d'expliquer quelle est la méthode pour encourager quelqu'un à faire teshuva. La méthode, on va dire, fast, d'accord, la personne, il est là, il faut être obligé de le réveiller parce que sinon il va t'échapper et tu sais pas s'il fera un jour teshuva. Là, bon, pas de problème, on utilisera le dernier. Là on parle de la méthode long terme.
Standard.
D'accord, la méthode standard, une fois que je suis déjà dans le coup, comment je m'y prends ? Là, on te dit comment tu t'y prends, Yutke Vavke. C'est un flash qui va produire une réflexion, qui va produire des sentiments, et là, c'est seulement qu'on va dire que ça va produire l'action. S'il n'y a pas toutes ces étapes-là, ça marchera peut-être, mais ce ne sera pas durable. Ces quatre principes de la communication, vous pouvez les appliquer dans toute la vie. Entre vous et votre femme, entre vous et vos enfants, dans votre business, partout. Les quatre principes qu'on a expliqués ici, c'est une base de la communication. Celui qui va arriver directement à la dernière étape, d'accord ? Alors, encore une fois, la dernière étape, ça peut être un boost.
Il achète des fleurs plus le Shabbat.
Par exemple, un client, voilà, on va prendre l'exemple du client. Voilà. T'as un client, il ne veut pas acheter le produit. Ton client n'est pas intéressé par le produit. Qu'est-ce que tu fais ? Tu dis, monsieur, tenez, venez, prenez mon produit, essayez-le.
Je suis au premier client.
D'accord ? Venez, monsieur, essayez mon produit. Qu'est-ce que tu viens de faire là ? Tu viens lui donner le dernier hé. Normalement, on essaie le produit quand on a fini. Quand on a déjà acheté, c'est la finalisation. Tu lui dis, prenez, monsieur, prenez le produit, essayez-le. Après, tu viens pas derrière, tu lui dis, bon, maintenant, je vais vous expliquer. Tu as créé le you, tu as créé le flash. Après, je vais vous expliquer ce qui s'est passé, monsieur. Ta 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 ta, le hé, le va. Après, tu envoies le dernier et tu dis, voilà, maintenant, achetez. C'est des techniques, ça, après. Mais ça ne change pas que l'ordre, comment les choses doivent se passer, c'est yutke vavke. D'accord ? L'ordre, comment les choses se passent normalement, c'est le flash qui crée la réflexion, qui crée le développement, qui crée le développement, qui crée la... Ça marche à tous les coups. Justement, ça peut que marcher puisqu'on a expliqué que c'est comme ça que le monde a été créé, c'est comme ça que nous-mêmes on fait les choses. D'accord ? C'est pour ça que l'Admorazaken a expliqué justement ce terme de Yud-Kilavke. Il a expliqué que le monde a été créé comme ça et que nous sommes créés comme ça. C'est le monde est créé comme ça. On va pas refaire le monde. C'est comme ça que ça marche. C'est que les choses prennent du temps. On peut pas sauter les étapes. Celui qui veut brûler les étapes, ça marche pas. Maximum, ce que tu peux faire, ça peut être un coup de pub. Un coup de com, comme ça. Tu lui dis, voilà, monsieur, essayez le produit. Ça, tu peux faire.
Quand tu, là, quand une personne met les tefilines alors qu'il fait aucune mitzvah, c'est un coup de com', c'est-à-dire, c'est le, comment... ça le met, ça, ça met sa neshama dans le cou. Mais il est pas dedans encore.
Comment tu veux qu'on développe un plan, même si on a eu un flash?
Le plan, c'est dans la tête.
Mais comment tu veux qu'on développe un plan sur les choses?
Mais encore une fois, le plan justement, c'est quand, c'est dans la vie de tous les jours. Quand chaque fois on va essayer de réfléchir comment je vais m'améliorer, tous les jours je bute sur ça, comment je vais essayer de me réparer. Chaque jour on va buter, chaque jour on va essayer de réparer. Ce que explique Seth Morazaken, c'est que chaque fois que tu vas buter, tu vas réparer, chaque fois tu avances un petit peu. Tu avances un petit peu, mais tu avances. Et ça, ça bouge pas. L'autre, il t'envoie une fusée, mais elle retombe aussi vite qu'elle est venue. Là, c'est de l'escargot, mais quand ça monte, ça bouge pas. Tu construis, comme une pierre, une pierre, mais ça bouge pas, c'est une construction.
D'accord ?
La tortue et le lièvre, exactement. Voilà. On s'arrête ici, d'accord ? Donc ça, c'est les quatre étapes de la communication. Bezrat Hashem, la semaine prochaine, dans Perek He. Là, on commencera à lier tout ça à la Tchouba. D'accord, on s'arrête là.